إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، le thème d'aujourd'hui est le monde des djinns. عالم الجن. عالم الجن est composé de deux termes. عالم, le monde. Djinn, c'est la créature que nous allons définir dans cette introduction. Ce thème fait partie du dogme, de l'aqida des musulmans. C'est pour cela qu'il est très important d'en parler. Il fait partie du sujet de l'aqida des musulmans. C'est un sujet cité dans le Coran al-Karim, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le croyant, le musulman, pour que sa foi soit acceptée par Allah Azza wa Jal, il doit croire à l'existence de ces créatures qui s'appellent al-djinn. Sinon, il contredit al-Qur'an al-Karim et les versets explicites dans le Qur'an al-Karim. Al-djinn, le terme al-djinn, en bref, dans la langue arabe, veut dire, vient de la racine qui veut dire caché, invisible. Au sens propre, le terme al-djinn, jannah, au sens propre, veut dire istatara, caché. Pour nous donner une image, ou bien la signification de ce terme dans la terminologie. On dit jannah veut dire istatara, c'est-à-dire caché. Et de là, quand on parle d'un jardin, en arabe on dit al-jannatu, le paradis, al-jannatu, veut dire un jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'arbres qui cachent les uns les autres. Ils cachent les uns les autres, alors on parle de al-jannah. Ça vient de la même racine que al-jinn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, dit as-siyamu junna. Le jeûne est une protection, junna, contre le feu et contre les tentations. Il utilise un mot qui vient de la même racine. Junna, une protection, comme un voile, un obstacle qui te cache. Un obstacle qui se met entre toi et le feu, entre toi et les passions, entre toi et les tentations. Il y a ce voile caché, ça vient de la même racine. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, parle de l'embryon, l'embryon dans le ventre de sa mère, il dit إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أجنة, l'embryon, parce qu'il est caché, on ne voit pas le lieu. Et bien c'est de là qu'on va comprendre le terme al-djinn au sens propre, parce qu'il est caché, on ne le voit pas. Ça c'est la règle de base, qu'on ne sait pas voir al-djinn. Il est caché, il fait partie du monde invisible, qu'on ne voit pas. Et on va voir par après dans quel cas on peut voir al-djinn. les Arabes, comme dit Ibn Abdelbar, rahimahullah, quand il s'agit d'un simple djinn, comme un simple musulman, quelqu'un de simple, il l'appelle djinn. Un djinn, il est simple. Et si ce djinn habite avec les gens dans leur maison, les Arabes l'appelaient Amir. Amir. Il habite avec les gens dans leur maison. Si ce djinn fait du mal, transgresse les limites, il l'appelle Shaitan. Shaitan. Et quelqu'un qui est redoutable parmi les djinns, qui est très très fort, on l'appelle, comme dit le Coran al-Karim, Ifri. Ifri. Ce sont des noms de djinn selon le degré de la force ou bien du mal. Al-Shaytan, c'est un djinn. Et non pas une autre créature. Quand on dit djinn, Shaytan, c'est la même créature. Mais le degré du mal est différent. Quand un djinn, un simple djinn, fait beaucoup de mal, on l'appelle Shaytan. Et ceci, il faut bien le retenir. Pour comprendre les versets du Coran al-Karim et les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Shaytan est cité dans le Coran al-Karim des fois pour désigner Iblis, Satan, Iblis, le père. Et on lit dans le Coran al-Karim, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Quand il parle de l'histoire entre Adam alayhi salam et Iblis, des fois Allah Azza wa Jal, il dit de Iblis, Shaytan, tout court. Et bien là, le terme Shaytan veut dire Iblis. Des fois, le terme Shaytan, dans le Coran al-Karim, veut dire non pas seulement Iblis, mais tout djinn qui a atteint un degré de mal, qui est très très fort. Comme dans l'aya Shayatin al-insi wal-jinni, yuhi ba'duhum li ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Shayatin al-insi wal-jinn. Même parmi les êtres humains, il y a des shayatin, comme dit le Coran al-Karim. Mais là, le terme shaytan, comme il veut dire Iblis, il veut dire al-jinn, qui a atteint un degré de mal, il veut dire aussi toute personne et toute créature qui fait du mal. Il s'appelle Shaytan. Même un être humain qui fait du mal, on l'appelle Shaytan, comme dit le Coran al-Karim, Shayatin al-insi wal-jinn. Des Shayatin parmi les hommes et parmi les djinns. Eh bien, ce sont les significations du mot al-jinn. Et quant aux djinns qui attaquent les enfants, les Arabes l'appelaient Al-Arwah, qu'on appelle nous l'Ariyah. Al-Arwah. C'est quand il s'agit d'un djinn qui attaque les enfants, comme dit Ibn Abdelbar, rahimahullahu ta'ala. C'est juste une terminologie, des termes qui sont cités dans le Coran, comme le terme shaytan, le terme djinn, le terme ifrit, le terme marid. Marid. Et il est cité dans le Coran Karim, dans Surah Safat, et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le terme marid. Al-Mirda. Ça vous dit quelque chose? Al-Marada min al-djinn. Marid. Marid, ça veut dire un rebelle, un shaytan, un djinn rebelle contre les commandements d'Allah Azza wa Jal. Il s'appelle Marid. Il est cité dans le Coran al-Karim et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dès la première nuit de Ramadan, les shayatin ainsi que les Marid de djinn sont enchaînés. Pas les petits djinns ne sont pas enchaînés. Mais les grands shayatin et les grands rebelles de shayatin, comme dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa maladatul djinn. Quant à l'existence de djinn, comme j'ai dit, ça fait partie du dogme, de l'aqida des musulmans, comme dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que tous les musulmans sont d'accord sur l'existence de djinn. Car c'est des versets dans le Coran al-Karim qui a cité l'existence de djinn. Mais si on revient un peu en arrière, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabl al-bi'sa, chez les autres religions, chez les juifs et les chrétiens, ils croyaient à l'existence de djinn. Mais ils avaient dans cette croyance des mélanges de l'haq, de la vérité et de le batel du mensonge. Ils croyaient à l'existence de djinn, les juifs et les chrétiens. Mais leur foi, leur dogme n'était pas correct. Même les Arabes, les associateurs arabes avant l'islam, ils croyaient au djinn, comme dit le Coran al-Karim. Dans Surah al-Jinn, il y a toute une sourate dans le Coran al-Karim qui s'appelle surat al-jinn. Eh bien, dans cette surat, Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait des hommes, des êtres humains, comme disent les mufassirun du Coran al-Karim, de ce verset, les Arabes, quand ils allaient dans des vallées où il n'y a personne, surtout la nuit, pour passer la nuit, ils devaient demander la protection aux grands djinns de cette vallée, de cet endroit. Ils disaient, nous cherchons refuge et protection contre le mal auprès du maître de cette vallée. Qu'est-ce qui se passait après? Eh bien, les djinns devenaient encore plus forts de voir les êtres humains chercher protection auprès d'eux, et les êtres humains devenaient encore plus faibles et commettaient plus de mécréances, comme disent les Mufassiroun. فَزَادُوهُمْ رَهَقَا. Eh bien, les Arabes croyaient aux djinns, mais ils avaient, comme dit le Coran al-Karim, chez certains Arabes, regardez qu'est-ce qu'ils ont mélangé avec cette croyance. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Allah Azza wa Jal dit que ces mouchriquins, ces associateurs, ont établi entre Allah subhanahu wa ta'ala et les djinns une parenté. C'est quoi cette parenté? Ils ont dit que Allah Azza wa Jal s'est marié avec des femmes djinns pour donner naissance à des anges, malaïka. C'est pour cela qu'ils disaient que le malaïka banatullah, que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. C'est ça la croyance qu'avaient les Arabes. Ils croyaient en l'existence du djinn, mais c'est une croyance qui est tout à fait mensongère dans beaucoup de côtés. Et les philosophes, comme dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, se sont encore plus éloignés de la vérité. Ils disaient n'importe quoi. Et même aujourd'hui, on trouve dans certains livres écrits aujourd'hui, certains qui disent que le djinn, ce sont des microbes, les virus. Que le djinn, cité dans le Coran Karim, en vérité, ne sont pas des créatures comme croient les musulmans. Mais en vérité, ce sont les microbes et les virus, c'est ça le djinn. On va voir ce que les virus et les microbes sont le djinn. D'autres qui sont musulmans, qui se disent musulmans, ils ont même jusqu'à dire, au début du siècle dernier, que les djinns, en vérité, dans le Coran al-Karim, ne veulent dire que les êtres humains. Les djinns, ce sont les êtres humains. Et que l'histoire citée dans Surat al-Jinn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son chemin de retour vers Mecca, il s'est arrêté, bien sûr, pendant la période mécoise avant l'Hijra, il s'est arrêté à un endroit tout près de Mecca qui s'appelle Nakhla, pour accomplir sa prière. Et tout d'un coup, il y a un groupe de djinns qui était de passage, et qui ont entendu la récitation du Coran al-Karim, ils se sont arrêtés pour écouter cette parole qu'ils n'ont jamais entendue. Et ces djinns, ces personnes qui ont écrit aujourd'hui des livres au début du siècle dernier, ils ont dit, en vérité, le Coran dit que ce sont des djinns. قُلْ أُحْيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Un groupe de djinns, mais ce groupe de djinns, en vérité, c'est un groupe d'hommes, de personnes, des êtres humains qui sont venus de Médine. Et comme c'était des étrangers, eh bien on les appelle djinns. Parce que tout ce qui est étranger, on l'appelle djinns. Ça veut dire que les étrangers qui se trouvent ici sont des djinns. Elle échauffe l'aqliya. Quand quelqu'un, il ne suit pas les versets du Coran, ni la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se sent un peu comme s'il était coupable, il doit donner des excuses aux autres pour leur dire, il faut pas nous voir il ne faut pas le diminuer. Pourquoi? Parce que nous disons pas que les djinns ce sont des créatures invisibles qui mangent, qui boivent, qui se marient, etc. Non, en vérité, soit des microbes et virus, ça veut dire qu'on croit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, cette position de faiblesse, elle n'est pas acceptée par l'islam. On a une religion qui est claire. Allah Azza wa Jal, il a dit le djinn, il a cité des caractéristiques de djinn, et le prophète les a décrits. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les versets et al-wahy, la révélation, pour corriger ces croyances qu'avaient les Arabes, qu'avaient les Juifs, qu'avaient les chrétiens à propos du djinn, pour montrer ce que sont les djinns que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Dans le Coran al-Karim, je ne donne que les références, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour lire tous ces versets. Dans Surat Al-Baqarah, déjà la deuxième Surat, Al-Baqarah, dans l'histoire de Adam et Iblis, Surat Al-An'am, versets 100, 112, 128, 130. Surat Al-A'raf, versets 38 et 179. Al-Isra, 88. Al-Kahf, la caverne, versets 50. Surat Naml, les fourmis, versets 17 et 39. Surat Saba, dans laquelle il y a l'histoire entre Sulayman, alayhi salam, le prophète Sulayman, et la reine de Saba, au Yémen. Sulayman, à qui Allah Azza wa Jal a donné le pouvoir de diriger les djinns, de les diriger, de les enchaîner, de les punir. Il ne pouvait pas refuser l'ordre de Sulayman par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat Al-Hijr, verset 27, Surat Fussilat, verset 25 et 29, Surat Al-Ahqaf, 18, 29, Al-Zariyat, verset 56, c'est le verset qui est connu par la plupart des musulmans.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. La fin de chacun de nous est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
À plusieurs reprises, il y a des versets qui parlent de djinn. Tout d'abord de la création de l'insan. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Ensuite, la création de djinn. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.
Ensuite, Allah s'adressa aux djinns et aux hommes. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.
En surat al-djinn aussi, et dans surat Safat, verset 158, etc. Il y a plein de versets, des dizaines de versets qui parlent de djinn dans le Coran al-Karim. Et dans le hadith al-Sahih, rapporté par Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ » Allah a créé les anges à partir de la lumière, d'une lumière. « خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ » Ce hadith va nous donner l'origine de ces trois créatures. L'être humain, le malaïka, les anges, et le djinn. Et ça va nous aider à répondre à la question qui va venir par après. Est-ce que Iblis était un ange ou bien était un djinn dès le début de sa création? Le hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ » Allah a créé les anges à partir d'une lumière. « وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ » Et Allah Azza wa Jal a créé le djinn de la flamme d'un feu sans fumée. « مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ » C'est la flamme qui est tout à fait au-dessus, qui n'a pas de fumée. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Et quant à Adam, il est créé, comme vous le savez, dans le Coran al-Karim, à partir de l'argile. À partir de ce texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne déjà l'origine de la création de shaytan, de djinn, qu'il vient de la flamme. D'une flamme, مِمْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ. D'une flamme sans fumée. Et d'une flamme qui a atteint une chaleur excessive et ardente. Comme dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rapporte aussi l'accord des musulmans à propos de ce sujet. L'origine de al-djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Rahman, dit « خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ » Il a créé l'être humain à partir de l'argile. Et quand il l'a façonné dans le paradis, il l'a laissé pendant un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Adam, alayhi salam, un certain temps avant de lui donner la vie. Eh bien, Shaitan le regardait, Iblis, il regardait Adam, comment il était. Il a vu qu'il était vide à l'intérieur. Il a dit, celui-là, il va pas tenir contre moi. Il est faible. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Iblis, déjà dans le paradis. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'insan, l'être humain créé à partir de l'argile. Et quant à al-djinn, wa khalaq al-djanna min marijin min nar, une flamme qui n'a pas de fumée, comme dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Il dit, nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, Et quant au djinn, nous l'avions auparavant, retenir ce terme auparavant, il va nous servir par après. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. L'origine du djinn, c'est du feu. Et l'insan, c'est de la terre. Et dans ce verset, comme dit Al-Alusi et Ibn Abbas et d'autres mufassirin, dans ce verset, il y a un point important qui est le suivant, que Al-Jinn est créé avant l'être humain. Puisque Adam, quand il fut créé par Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis était déjà dans le paradis. Et dans le verset, il dit Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Nous avons créé l'être humain à partir d'une argile, d'une boue malléable. وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. Et Al-Jinn, nous l'avons créé auparavant. Auparavant créé à partir d'un feu, d'une chaleur ardente. Auparavant, c'est-à-dire avant la création de Al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi de Iblis, quand il lui ordonna de se prosterner devant Adam. Qu'est-ce qu'il répond, Iblis? Il dit, Ana, khayrun minhu. Je suis meilleur que Adam. Khalaqtani, tu m'as créé à partir du feu. Khalaqtani min nar. وخلقته من طين. Et quant à Adam, tu l'as créé à partir de l'argile, et le feu est meilleur que l'argile, le feu est plus fort que l'argile. Eh bien moi je suis meilleur que Adam. Ils ont déjà dit خلقتني من نار. Iblis savait qu'il est créé à partir de nar, du feu, comme rapporte le Coran al-Karim. La question est la suivante: Iblis était-il un ange, comme disent certains savants musulmans, certains exégètes du Coran al-Karim? Ils disent que Iblis était un ange, nous rapporte des paroles des premières générations musulmanes, de certains savants, comme quoi il y avait Al-Jinn, ils disent est-ce que Iblis était un ange? Certains savants musulmans rapportent des récits en disant qu'il y avait, avant la création de Adam, il y avait sur terre Al-Jinn. Et ces djinns semaient, répandaient le désordre sur terre et faisaient des massacres, tuaient les autres créatures, faisaient couler du sang, etc. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Iblis avec à peu près 4000 anges pour combattre ces djinns sur terre. Et que Iblis est venu et les a tués et les a chassés de la terre et se sont enfuis dans les îles. Les djinns se sont enfuis dans les îles. Et après, Iblis est devenu quelqu'un d'orgueilleux, qui disait, eh bien, c'est grâce à moi que j'ai établi l'ordre sur terre. Il a commencé à avoir l'orgueil. Eh bien, cette histoire n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran al-Karim. On ne peut pas la prendre comme un dalil. Elle est rapportée dans les livres de tafsir, mais on n'a pas de dalil. Pour parler des choses invisibles, d'un ghaib, il nous faut un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien un texte du Coran al-Karim. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on lui a dit, est-ce que Iblis fait partie, ou bien faisait partie des anges de l'Malaïka? Il dit, لم يكن من الملائكة طرفة عين. Il n'a jamais été un ange, Iblis. Eh bien, si on revoit maintenant le hadith du prophète, sallam, de Aïcha, radiallahu anha, dans Sahih Muslim, les Malaïka sont créés à partir d'une lumière. Les djinns sont créés à partir d'une flamme de feu. L'être humain à partir de l'argile. Ce sont trois origines différentes. On ne peut pas dire que le djinn était un ange au départ. Allah Azza wa Jalla dit « Illa Iblis kana » dans Surat al-Kahf. Quand Allah Azza wa Jalla lui ordonna de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés, excepté Iblis. Allah il dit « Illa Iblis » كان من الجن faisait partie du djinn, non pas du malaïka, du djinn. ففسق عن امر ربه, il s'est rebellé contre le commandement d'Allah Azza wa Jal. Il part dans les mêmes versets du malaïka, et quant à Iblis, il dit كان من الجن, il était parmi les djinns, non pas le malaïka. Et l'origine du djinn, de la création du djinn, est citée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le djinn, ces créatures créées par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elles mangent? Ces créatures, est-ce qu'elles mangent ou pas? Est-ce qu'elles ont besoin de manger? qui a une idée. Il y a quelqu'un qui a mangé avec eux un jour, hein? Eh bien, on va voir dans le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la réponse à la question. Est-ce que le djinn mange? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est connu par la plupart des musulmans, il dit, mange avec ta main droite et bois avec ta main droite. Car le shaitan mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Le shaitan, il mange et il boit. Ça, c'est un premier hadith authentique. Le deuxième texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour demanda à un compagnon, Abu Huraira, radiallahu anhu, il y a aussi une histoire avec Abdullah ibn Mas'ud, de lui apporter des pierres pour purifier les parties après avoir fait ses besoins. Il lui a demandé de lui apporter des pierres. Il lui a dit, mais ne m'apporte pas ni un crottin, ni un os. Parce que le crottin, c'est la nourriture des animaux, des bêtes de djinn. Le crottin, c'est la nourriture que mangent les bêtes de djinn. Et quant aux os, les os, ce sont la nourriture des djinns musulmans. Si cet os vient d'une viande halal, si cet os vient d'une viande halal, sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal, Madhuki Rasmullahi Alayhi, eh bien, cet os, Allah Ta'ala le transforme en un morceau de viande bien, masha'Allah, bien rempli, pour les djinns musulmans, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant aux djinns non musulmans, eh bien, ils mangent la viande qui est haram, les bêtes mortes et non égorgées, etc. Mais dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahih, il montre que les os qu'on jette, puisque c'est de la viande halal, eh bien, Allah Ta'ala, de nouveau, crée de la viande sur ces os que les musulmans, les djinns musulmans, peuvent manger. Alors, il est interdit aux musulmans d'utiliser ces os pour purifier ses parties s'il est jamais quelque part et qu'il n'a pas de l'eau. Même s'il est chez lui, s'il peut utiliser l'eau, il peut utiliser les pierres. Ça, c'est un autre sujet. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme rapporte l'imam muslim, dit un jour, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, atani da'i djinn, que le porte-parole de djinn est venu appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une nuit, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'appeler. C'était le porte-parole de djinn, le représentant, le délégué de djinn. Atani da'i djinn, fadhahabtu ma'ahu, faqara'tu alayhim al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité le Qur'an al-Karim. Pourquoi? Pour leur prêcher l'islam. Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pas l'alam des êtres humains, pas pour, que pour le monde des êtres humains, pour les mondes, l'alamin. Al-jinn, al-ins et rahma, dans ce sens, rahma c'est pour toutes les créatures, rahma. Mais ceux qui sont chargés de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jalla, ce sont al-jinn, al-ins, les êtres humains et al-jinn. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité des versets du Coran al-Karim. Qala fantalaqa bina. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a pris avec lui certains compagnons. Il y avait avec eux Abdullah ibn Mas'ud. Fa'arana atharahum wa athara niranihim. Ibn Mas'ud, il dit, le prophète nous a montré les traces des djinns, parce qu'ils étaient déjà partis, et les traces de leur feu qu'ils ont laissé, comme un endroit brûlé qu'ils ont laissé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigner l'islam. وَسَأَلُوهُ الزَّاد. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nourriture, de la provision. فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَحْمًا. Vous avez droit à manger tous les os qui viennent de la viande halal. Vous le trouverez plein de viande. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. Et les crottins, ce sont de la nourriture pour vos bêtes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم. Alors ne les utilisez pas ces deux matières pour purifier les parties après avoir fait ces ablutions, car c'est de la nourriture pour vos frères, les djinns. Est-ce que les djinns se marient-ils entre eux? est-ce qu'ils peuvent avoir des descendants, des enfants? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Il parle aux musulmans, il parle aux gens, il dit, est-ce que vous prenez Iblis et sa descendance pour allier la descendance de Iblis? Dhurriya veut dire la descendance. Ça veut dire que Iblis a une descendance. Il dit aussi dans Sourate Ar-Rahman, en parlant des femmes du paradis, لَمْ يَقْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Dans le paradis, ils y trouveront des femmes, les femmes du paradis, au regard chaste, qasirat al-sarf, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu des rapports avec un être humain, ni avec un djinn. Avec un djinn. Ça veut dire que le djinn peut avoir des rapports avec une femme. Le mufassir al-Alusi, rahimahullah, dit, al-Zurriya, dans ce verset, que Iblis a une descendance, il dit que Zurriya veut dire les enfants. Et que ce verset est une preuve pour ceux qui disent que Iblis a des enfants. On rapporte cet avis de Qatada, de Tabi'in, et de Al-Hassan al-Basri. Anas dit dans le hadith al-Sahih, rapporté par al-Bukhari au Muslim, quand on rentre, quand le prophète sallam allait aux toilettes, qu'est-ce qu'il disait? Dua. Quel dua qu'on dit? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Al-khubuth, c'est le pluriel de l'khabith. Ça veut dire les démons mâles. Al-khaba'ith, c'est le pluriel de khabitha, les démons femelles. Il y a des mâles et des femelles. Dans djinn, il y a des mâles et des femelles. Alors, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger contre le mâle des deux, le mâle et le femelle de le djinn. Mais quant à la manière d'avoir les rapports entre un mâle djinn et une femelle, seul Allah Azza wa Jal le sait. Ça c'est du ghaïb, et comme on n'a pas de texte, et bien on ne peut pas s'aventurer là-dessus. La question qui est encore plus compliquée, est-ce que le djinn peuvent avoir des rapports avec les êtres humains? Est-ce qu'ils peuvent se marier avec les êtres humains et est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants avec les êtres humains? Les ulama ont divergé à propos de ce point, de cette question. Et selon le savant, l'élève de Ibn Abbas, Mujahid, et selon le grand savant Al-A'mash, et un avis aussi rapporté de Al-Hassan al-Basri et Qatada, ils ont d'autres avis qui interdisent, et on rapporte aussi de l'imam Malik et de certains savants Hanafites et Hanbalites de l'école de Ahmed, qu'il est possible de se marier, d'avoir un mariage entre un homme, un être humain, et un djinn. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, les djinns et les hommes peuvent se marier entre eux et avoir des enfants. Ceci est connu et il existe beaucoup de cas. Il est au courant, Cheikh l'Islam, qu'il y a beaucoup de cas où il y a eu un mariage entre les hommes et les djinns, et qu'ils ont même eu des enfants. Les autres savants disent que ce n'est pas possible d'avoir un mariage entre le djinn et l'ins. Mais al-qawl al-radih, comme disent les ulama, c'est que les rapports entre le djinn et l'ins, avoir des rapports, c'est possible. C'est tout à fait possible. Avoir des rapports, c'est tout à fait possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des femmes du paradis, il dit qu'ils n'ont jamais été touchés ni par le djinn, ni par l'ins. Ça veut dire que le djinn peut avoir des rapports avec la femme. Comme l'ont interprété les grands savants de Tafsir. À partir de ce verset, ils ont déduit comme quoi il peut y avoir des rapports entre un homme et un djinn, une femme djinnia, et vice versa. Mais pour les enfants, certains savants disent que c'est possible. On n'a pas de preuve de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran al-Karim. Certains savants, d'après ce qu'ils ont entendu comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit « وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ » C'est une chose connue. Il y a beaucoup de cas. D'après ce qu'on lui a raconté, les cas qu'on lui a raconté, c'est possible ? Na'am. Mais est-ce que c'est certain ? Allahu a'lam. Il nous faut un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant au rapport, c'est tout à fait possible, comme l'ont déduit certains savants à partir des versets du Coran al-Karim et des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré que ces rapports peuvent avoir lieu entre l'homme et le djinn, eh bien, l'imam Malik, il dit qu'il est makro, il est déconseillé de se marier avec une djinnia. Parce qu'il y a des gens qui aiment se marier avec une djinnia. Ils veulent se marier avec une djinnia. Et ça, il y a des cas. Il y a des cas où il y a un mariage entre des êtres humains et des femmes djinnia, des cas cool. Et l'imam Malik, il dit, moi, je ne l'interdis pas, mais c'est makro, je le déconseille. Pourquoi? Parce que les gens du Yémen lui ont écrit, ils ont dit, est-ce que c'est permis d'avoir un mariage entre un homme et une djinnia? Ils ont même dit qu'il y a un djinni, un homme de djinn, qui est venu demander la main d'une femme, des êtres humains. Est-ce que c'est permis? Il dit, c'est permis, mais je déconseille. Pourquoi? Et on ne sait jamais cette femme, quand elle va tomber enceinte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? D'où ça vient cet enfant? Elle dit, non, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'elle va dire cette femme? Elle va dire que c'est mon mari, puisqu'il est son mari. Mais il est là, à côté, on ne le voit pas. Alors, chaque femme qui va commettre l'adultère, elle va dire, moi j'ai un mari de djinn. Eh bien, ce sera le fassad, comme dit Imam Malik. C'est pour ça que des grands savants ont interdit ce mariage. Même si c'est possible d'avoir des rapports entre les deux, ils disent que c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Karim, وَخَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, qui vous a créé de vous-même, et par les êtres humains, des femmes, des épouses. De vous-même, et non pas de djinn. De vous-même. Et dans le contrat de mariage, il faut des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont témoigner quand il y a un djinn qu'on ne voit pas? Il va dire, j'ai entendu quelqu'un qui parle, qui dit, j'ai accepté le mariage. Quelle est la dot? Il a dit, qui a dit ça? S'il n'y a jamais un problème entre cette femme et son mari djinn, où est-ce qu'ils vont aller? S'il y a un problème, il y a un divorce, où est-ce qu'ils vont aller? Tribunal. Hein? Le tribunal de djinn ou bien de l'ins? C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que Ra'i Rajih, l'avis le plus fort, c'est l'interdiction de contracter ce genre de mariage entre le djinn et l'ins. Quels sont les lieux préférés par Shayatin? Ça c'est très important. Les lieux préférés par Shayatin. De un, c'est les lieux de Ma'asiyah. Les lieux où il y a le péché. Ce sont les meilleurs endroits préférés par Shaytan. Je parle de Shaytan maintenant. Quand le djinn, un simple djinn, il peut être musulman, il peut être kafir. Comme disent les ulama, que parmi les djinns, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les mu'tazila, il y a les soufis, il y a toutes les sectes. Dans les djinns comme chez les êtres humains. Et on a même demandé à un savant, Al-A'mash, et cette chaîne jusqu'à Al-A'mash est rapportée d'une façon authentique, de l'A'mash, on lui a dit, parce qu'il a rapporté une histoire, en disant qu'un jour, on a demandé à un djinni, on lui a dit, qu'est-ce que vous considérez la secte de Rawafid, ce qu'on appelle aujourd'hui Shia, les chiites chez vous? Il dit, ce djinni, il dit, ce sont les pires chez nous. Les pires chez eux. Ce sont Shia, même chez nous. Les lieux préférés par Shaitan, ce sont les lieux de Marfia, les lieux sales, impurs, où il y a de la saleté. Al-Najasa. Comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des toilettes. Inna hadihi al-amakin, ou inna hadihi al-hushusha muhtadara. Muhtadara. Ça veut dire shayatin hadira, ils sont présents. Shayatin vont dans les toilettes, dans les endroits sales et impurs. Ils aiment les endroits sales et impurs. Les lieux sombres et obscurs, ils sont préférés par Shaitan. Le hadith al-sahih, dans lequel le prophète sallam ordonne aux parents de prendre leurs enfants et de les empêcher de sortir à la tombée de la nuit. Dès que c'est la tombée de la nuit, c'est-à-dire al-Maghrib, il ne faut pas laisser les enfants sortir dehors. Parce qu'à ce moment-là, comme dit le prophète sallam, tantashiru shayatin, c'est là que se répandent al-shayatin, à la tombée de la nuit, al-Maghrib. Bien sûr, pour répandre le mal. Les endroits obscurs où il n'y a pas de lumière, eh bien, Shayatin les préfère et sont répandus dans ces endroits. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. et aussi dans les marchés, al-souq, dans les marchés, l'abattoir, hein, et compagnie. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, dit « La takounanna in istata'ta awwala man yadkhulu ou awwala man tadkhulu al-souq. » Si tu peux, ne sois jamais le premier à entrer au marché, al-souq, ni le dernier à sortir du marché. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Shaitan, il installe en quelque sorte son quartier général pendant ce moment. Quand les gens ils sont là dans le souk, c'est là où s'installe Shaitan, il met son drapeau, comme dit le prophète sallam, il met son drapeau, il commence à répandre le mal. Au marché, on trouve quoi? Le mensonge, al-kadhib. Wallah, je l'ai payé à 30 000. Il l'a acheté à 2 000. Il n'y a aucun défaut. Tu roules 2 km, eh bien, elle est en panne. Il y a al-haram, les regards illicites, al-haram, dans les marchés. Il y a l'exhibition dans les marchés. Celui qui revient, hein, avec masha'Allah, il est sauvé, peut-être avec 2, 3, 4 camions de ma'afi, de péché. Le meilleur. Il revient certainement avec le ma'afi, illa man rahim Allah. Le mensonge, les regards illicites, les habits illicites, il y a les disputes pour 2 francs, pour 3 francs, pour 3 bananes, on se dispute, etc. Dans le marché, il y a toute une liste de ma'asi, de péchés. Pourquoi? Parce que le shaitan est là. Le prophète te dit, ne sois pas le premier à entrer au marché, ni le dernier à le quitter. Va, tu achètes ce dont tu as besoin, et tu pars. Al-Shaytan aime aussi vivre avec les gens à la maison. Bien sûr, dans les maisons où il n'y a pas l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam nous a recommandé de lire le Coran chez nous à la maison et de faire la prière chez nous à la maison. La prière surrogatoire. Afdalu salati, hein? Fainahiya, où ça se fait la meilleure prière à la maison? C'est quoi? Toutes les prières sont meilleures à la maison. Il est maktouba. Sauf la prière obligatoire, c'est à la mosquée. Alors, ça nous a dit, ne prenez pas vos maisons pour des cimetières. Lisez le Coran. Faites la prière à la maison. Et récitez le Coran à la maison. Si tu rentres à la maison sans invoquer Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça nous donne, subhanallah, une description détaillée. Il dit, quand tu arrives chez toi, tu rentres à la maison sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis. Il dit, venez! Aujourd'hui, vous avez une chambre gratuite. L'hôtel est gratuit aujourd'hui. Venez, il les appelle. Elle m'habite. Donc, vous avez aujourd'hui garanti le logement, gratuitement. Tu rentres chez toi, tu dis pas bismillah avant de manger. Il mange avec toi, il dit à ses amis, venez. En plus, hein, en plus du logement, mashallah, vous êtes logé et nourri, gratuitement. Chez qui? Chez le musulman qui n'invoque pas Allah Azza wa Jal. Une maison où tu lis le Coran, notamment Surat al-Baqarah, comme dit le prophète sallam, la maison dans laquelle on récite Surat al-Baqarah, al-Shaytan ne rentre pas. Eh bien, dans la maison où il n'y a pas de Coran al-Karim, il n'y a pas de Surat al-Baqarah, il n'y a pas d'invocation, al-Shaytan, il vient, il rentre, il passe la nuit avec toi, et il essaye, bien sûr, de dire qu'il passe la nuit chez toi, tu dis, laisse-le tranquille, même s'il passe chez moi la nuit, il n'y a pas de problème. Du moment que je ne le vois pas. Mais il n'est pas là pour subjurer le péché, al-ma'asiyah, la colère, la dispute avec son épouse et avec ses enfants, commettre le haram, et te faire rater la prière du fajr, etc. Il a beaucoup de mal. Parmi les endroits du shaitan, c'est entre un endroit ensoleillé et un endroit, il y a de l'ombre. Entre les deux. Et subhanallah, beaucoup de gens aiment se mettre dans cette position, dans cet endroit. Ils mettent la partie supérieure dans l'ombre, le reste dans le soleil. Comme ça, le soleil n'oublie pas son visage, mais alhamdulillah, il profite du soleil. Et c'est ça le lieu du shaitan. C'est l'endroit où s'assoit shaitan. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te mets soit dans l'ombre, soit dans le soleil. Entre les deux, c'est l'endroit où s'assoit shaitan, comme dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par
Abu Dawood et Tirmidhi ibn Majah, il est authentique.
Est-ce que les djinns ont des montures? Est-ce qu'ils ont des montures? Des bêtes? Comme chez les êtres humains. Le hadith qu'on a vu là tantôt, dans lequel le prophète nous dit que le crottin, hein, c'est la nourriture des bêtes de djinns. Donc elles ont des montures. Et certains animaux sont préférés, ils sont même accompagnés par shayatin. C'est le cas du chameau. Le cas du chameau. Derrière chaque chameau, il y a un shaytan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Derrière chaque chameau, il y a un shaytan. Et même, des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ibil, al-ibil, khuliqat min al-shayatin, qui sont créés, les chameaux sont créés à partir du shayatin. Bien sûr, là, on commence pas à lire. Mais comment? Ça, c'est un animal, ça, c'est un djinn. Ça, c'est le monde, c'est le ghayf. Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Nous, il nous a créés à partir d'une goutte de sperme. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de la terre, et Iblis à partir du feu, les anges à partir de la lumière. Allah est ala kulli shay'in qadir. Pas comment? Comment c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait? Et le prophète nous a interdit de prier dans les enclos des chameaux. Il nous a interdit de prier dans les enclos où il y a les chameaux. Ils passent, ils passent leur nuit, etc. Pourquoi? Parce que là, les chameaux, derrière chaque chameau, il y a un shaytan. Ils sont créés à partir du shaytan, comme dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le shaytan, qui est un djinn, mais qui fait du mal, est-ce qu'il est beau à voir? Est-ce qu'il a un beau visage? Hein? L'image que les gens ont de shaytan, hein, qu'elle est belle ou bien elle est mauvaise? Elle est mauvaise, très mauvaise. Même chez les non-musulmans, quand ils dessinent le shaytan, ils donnent une image qui est très mauvaise, avec des cornes, hein, des yeux des fois rouges ou bien en spirale, une queue, etc. Eh bien, quand on a fait, regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un livre, ils ont essayé d'imaginer le shaytan. On ne peut pas dire que c'est ça le shaytan. Mais nous, on se réfère au texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an al-Karim. Allah Azza wa Jal, en parlant de l'arbre dans l'enfer, dans le Jahannam, comment il s'appelle cet arbre? Al-Zakoun. Al-Zakoun. Allah Azza wa Jal dit de cet arbre qui au fond de l'enfer, de la fournaise, dit que les fruits de cet arbre, ka'annahu ru'usu shayatin. C'est un arbre dans le fond de l'enfer qui a des fruits très mauvais à voir, qui ressemble à la tête du shaytan. À la tête du shaytan. Ça veut dire que le shaytan a une image qui est très très mauvaise à voir. Et même quand vous demandez aux gens qui sont possédés, qui sont malades, de vous décrire ce qu'ils voient, ils vont donner à peu près la même image qu'on trouve dans les livres, etc. Le shaytan a des cornes. Il a des cornes, là. Al-Qarnayn, al-Qurun. Il a des cornes, comme dit le prophète Aflem. Au lever du soleil et au coucher du soleil, il ne faut pas prier, faire des nawafil. Pourquoi? Parce que le soleil, comme dit le Rasoul, tatlu'u bayna qarnayi ash-shaytan, car le soleil se lève entre les deux cornes du shaytan. Certains savants disent, en expliquant le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des sectes qui adorent le soleil, et ça c'est connu, ça existait, ça existe encore, des sectes qui adorent le soleil. Et le matin, au lever du soleil, se prosterne devant le soleil. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il se met entre ces gens, les adorateurs du soleil, et le soleil, qui monte entre les cornes de Shaitan. Il se met entre les deux. Pour dire, regardez, ils sont en train de m'adorer, moi. Alors le prophète, pour ne pas ressembler à ces associateurs qui adorent le soleil, il nous a interdit de faire la prière à ce moment-là, sauf pour des prières qui ont des raisons comme Tahiyat al-Masjid, etc. Quel est le pouvoir de Al-Jinn? Est-ce qu'ils ont un pouvoir qui est fort? Est-ce qu'ils ont de la puissance et de la force? Eh bien, Al-Qur'an al-Karim nous parle de Al-Jinn de Sulayman. Les djinns qui étaient au service de Sulayman, le prophète Sulayman. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Sad, dans Surah Saba, etc. Il nous a parlé de cette histoire. Sulayman avait des djinns qui étaient spécialistes dans la construction de grands bâtiments, des sanctuaires, comme dit le Coran Karim, Mahari, et même des plateaux énormes. Les plateaux pour manger, c'était des plateaux énormes qui pouvaient servir pour des dizaines de personnes. Et des marmites qui étaient encastrées dans le sol pour ne jamais les déplacer, tellement elles sont lourdes. C'est les djinns qui les fabriquaient pour faire cuire dedans de la nourriture pour des dizaines et voire même des centaines de personnes. C'était des marmites fabriquées par les djinns. Il avait aussi des spécialistes dans la plonge. C'était des plongeurs spécialistes, comme dit le Coran al-Karim. C'est pour aller chercher des perles au fond de la mer. Ils étaient tous au service de Sulayman. Sulayman alayhi salam avait pris Allah Azza wa Jal en disant Habli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Il dit Allah Azza wa Jal, donne-moi, accorde-moi un pouvoir que tu ne donneras à jamais, jamais à quelqu'un après moi. Allah Ta'ala lui a donné ce pouvoir à Sulayman. C'est de pouvoir diriger le djinn comme il le veut. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait attaquer par Shaitan pendant sa prière, quand il était en train de faire la prière, Shaitan l'a attaqué avec une flamme. Il a voulu brûler le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sallallahu alayhi wa sallam a dit, « A'oudou billahi min » Il dit, « Je cherche refuge auprès d'Allah ta'ala contre toi. » Shaitan n'est pas parti. Il a encore essayé d'avancer pour brûler le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, العنك بلعنة الله السام. Il dit, je te maudis par la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas parti Shaitan. Et à la fin, dans la prière, le prophète sallam le prie avec sa main, il le prie et l'a étranglé. Et sahaba qui est derrière le prophète sallam, ils ont entendu ces paroles, العنك بلعنة الله السام. أعوذ بالله منك. Ils voyaient le prophète sallam faire un geste. Dans sa prière, dans la consternation, il voyait faire le geste pour étrangler quelqu'un. Mais il voyait personne, sahaba. Et à la fin de la prière, ils ont dit à Rasulallah, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, tu as prononcé des paroles que tu n'as jamais prononcées dans la prière. Et nous t'avons vu faire un geste que tu n'as jamais fait auparavant. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était Shaitan qui est venu pour brûler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète, il l'a étranglé jusqu'à ce que la langue, donc il a une langue de Shaitan. Le djinn a une langue, comme dit le prophète sallam. Que la langue de Shaitan est sortie de sa bouche pour se mettre sur la main du prophète sallam. Tellement il allait presque mourir. Et Rasul sallam a dit à Sahaba, j'ai voulu l'enchaîner, l'attacher à un pilier de la mosquée de Médine, et que les enfants viennent pour jouer avec. Frapper Shaitan, lui donner des gifles. Mais Rasul sallam, il dit, je me suis rappelé de l'invocation faite par Sulayman. Car Sulayman a dit, Ya Rabbi, il dit, donne-moi, accorde-moi un pouvoir que tu ne donneras à personne après moi. Alors le prophète a fait pour respecter Sulayman alayhi salam, il a lâché Shaitan. Le jour de la bataille de Badr, pour voir un peu, regardez la puissance d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a accordé à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a donné? Al djinn. Nous ne parlons pas du malaïka. On est beaucoup plus fort. On parle de djinn. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala leur a donné comme pouvoir? À la bataille du Badr, al-shaytan, Iblis, il est venu, il a pris la forme d'un sahabi. Mais à l'époque, il n'était pas encore musulman, ce sahabi. C'est Suraqa ibn Malik, qui a suivi le prophète lors de l'hijra, qui a voulu rattraper Rasul sallam, pour prendre la prime de Quraysh. Cet homme est venu, bien sûr, Shaitan a pris la forme de Suraqa. Il est venu avec Quraysh. Quraysh avait peur d'une tribu arabe. Ils avaient peur qu'il venait derrière et les attaquer. Parce que le prophète, quand il met son armée, était devant, Quraysh en face, eh bien Quraysh avait peur de cette tribu, de venir par derrière et attaquer Quraysh, parce qu'ils étaient en conflit avec Quraysh. Alors Shaitan, pour encourager Quraysh et les Mécois de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Badr, il est venu sous la forme de Suraqa ibn Malik pour dire à Quraysh, vous n'avez rien à craindre, moi je fais partie de cette tribu et je suis avec vous. eh bien vous n'avez rien à craindre. Mais quand Allah Ta'ala a envoyé les anges et Jibril pour combattre auprès des musulmans, le shaitan Suraqa, qui a pris la forme de Suraqa, a vu Jibril alayhi salam arriver sur un cheval, il a vu les anges arriver sur des chevaux, qu'est-ce qu'il a fait? Rob. Il est parti, il s'est enfui. Et comme il avait la main dans la main d'un mouchrik, ce mouchrik lui a dit à Suraqa, où tu vas? Tu nous laisses tomber maintenant? Dans les pires des moments, le shaitan lui a donné un coup de poing. Il dit, lâche-moi, laisse-moi tranquille. Inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah wa Allahu shadidul iqab. Dans Surat al-Anfal, il lui dit, laisse-moi tranquille, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Vous voyez Jibril et les anges arriver. Dis-moi, je crains Allah. Bien sûr, il craint Allah. Pas dans le sens d'une iman, il a l'iman. Mais dans le sens, il a peur de la punition d'Allah. Il dit, wallahu shadidul iqab. Le châtiment d'Allah est douloureux. Il a peur de. Du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, le shaitan, il peut prendre la forme, se transformer. Ça, c'est un pouvoir qu'Allah Ta'ala a accordé à l'djinn, de se transformer, de prendre la forme de l'être humain. L'histoire d'Abu Huraira. Abu Huraira qui était chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de garder al-zakat pendant Ramadan. Garder al-zakat, il avait les dates que donnaient les musulmans comme zakat, il les gardait chez lui. Et une nuit, il rentre chez lui, il trouve quelqu'un en train de, en train de prendre les dates, Inch'Allah, son aide chez lui. Abu Huraira lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il le prend. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais te prendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais t'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu voles la zakat, et chez moi, je vais te prendre et t'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, il lui dit, ça fait semblant d'être quelqu'un de pauvre. Il lui dit, je suis quelqu'un de pauvre, j'ai une famille à nourrir, j'ai pas d'argent. Laisse-moi tranquille, je reviendrai plus jamais. Abu Huraira l'a laissé partir. Le lendemain, c'était la nuit, le lendemain matin, Abu Huraira a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui lui dit, subhanallah, il dit, Ya Abu Huraira, nafa'ala sahibi. Qu'est-ce qu'il est devenu ton compagnon, ton ami, d'hier? Abu Huraira dit, il est parti. Je l'ai lâché parce qu'il m'a dit qu'il est pauvre et qu'il a des enfants à nourrir. Alors ça, je lui ai dit, Kadhabaka, Sayaoud, il t'a menti, il va revenir encore une fois. Et la deuxième nuit, Abu Huraira rentre chez lui, trouve encore cet homme en train de prendre la zakat. Il lui dit, maintenant, je te lâche plus. Tu vas avec moi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nouveau, il dit, laisse-moi tranquille, je suis pauvre, j'ai des enfants à nourrir, je te promets de ne plus jamais revenir. Il le lâche. Le lendemain matin, il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors il dit, Ya Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a fait ton ami? Il dit, je l'ai lâché parce qu'il s'est plaigné d'avoir des enfants pauvres, alors je l'ai lâché. Alors il dit, il t'a menti, il va revenir encore une troisième fois. La troisième nuit, il est revenu de nouveau, Abu Huraira l'a attrapé. Il dit, maintenant, c'est la dernière fois, je te lâche plus, c'est fini. Tu m'as menti deux fois, l'âge al-Baraq. Et il lui a dit, écoute, on va faire moi et toi un marché. Je vais t'apprendre quelque chose, et tu me lâches. Shaitan, Iblis, un shaitan, il dit à Abu Huraira, je vais t'apprendre quelque chose et tu me lâches. Abu Huraira, regarde comment, Sahaba, j'étais assoiffé d'acquérir la science. Il n'a pas dit, toi, un shaitan, tu vas m'apprendre? Ou bien toi, un autre, tu ne savais pas que c'était un shaitan. Il dit, toi, tu vas m'apprendre, un voleur qui va m'apprendre. Il dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il dit, je vais t'apprendre une parole. Si tu dis cette parole, et tu dors, eh bien, tu seras protégé jusqu'au matin. Contre shayatan. Il dit, c'est quoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, etc. Le verset du Coran, ayat al-Kursi. Abu Huraira a lâché cet homme, le lendemain matin, il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah dit, Ya Abu Huraira, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il lui a raconté l'histoire. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce que Shaitan a enseigné à Abu Huraira. Il lui dit, ce qu'il t'a dit est vrai. Sadaqaka wa huwa kadhoub. Ce qu'il t'a dit, comme quoi si tu dis, ayat al-kursi, avant de dormir, tu seras protégé contre Shayatin jusqu'au matin. Cette phrase est vraie. Tout en sachant que Shayatin sont des menteurs. Wa huwa kadhoub. Il lui a dit que Shaitan, c'est un menteur. Mais cette fois-ci, il a dit la vérité. Cette fois-ci, il a dit la vérité. Et ceci, c'est une règle qui est très importante. Pour ceux qui font ruqya, il lit sur les gens. Il dit, ouais, Shaitan, un djinn, il m'a dit que c'est un tel qui lui a fait sur, et que c'est un tel qui l'a caché sur, etc.
N'oublie pas que les chayatines sont des menteurs. Le Rasoul dit, wa huwa kadhoub, sirat mubalagha. C'est quelqu'un qui ment, il ment beaucoup. Comme dit le prophète sallam, kadhoub, il ment beaucoup, chayatine. Faut pas les croire. Faut faire très attention. Tu veux pas accuser un musulman de quelque chose parce que chayatine te l'a dit. Un djinn te l'a dit. Faut faire très attention. Il va te raconter des histoires incroyables. Fais très attention. Et on aura peut-être une autre occasion, inchallah, de parler de al-ruqya, al-shar'iyya. Comment faire ruqya? Non, char. Non, pas comme la mode d'aujourd'hui. Al-shaytan, ou bien al-djinn, il peut être musulman ou mécréant, peut prendre la forme des animaux, d'un serpent, d'un chien. Une histoire qui a eu lieu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit Abu Sa'id, il dit un jour, je suis rentré chez Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Je l'ai trouvé en train de faire sa prière. Je devais l'attendre jusqu'à la fin de sa prière. Et tout d'un coup, j'entends du bruit dans le plafond. Et comme ils avaient le plafond fait avec des troncs d'arbres et des branches, eh bien, il a entendu un bruit fort dans le plafond. Et tout d'un coup, j'ai aperçu un serpent. C'est Abu Sa'id al-Khudri, à la maison. Et je suis parti pour le tuer. Abu Sa'id al-Khudri, dans sa prière, m'a fait un geste pour me dire, reste à ta place. Il a fait un geste dans la prière. Pour lui dire, reste à ta place, assieds-toi. Abu Sa'id, qui a raconté cette histoire, il dit, je me suis assis. À la fin de la prière de Abu Sa'id, il me dit, tu vois cette maison qui est à côté, à midi. Il dit, c'était la maison d'un jeune Ansari, un Midinois, lors de la bataille du fossé, Ghazwat al-Khandaq. Les Sahaba et les musulmans ont dû creuser un fossé dans le nord de Midin pour empêcher les 10 000 soldats de Mouchriquine d'attaquer Midin. Rasoul sallam ordonna chaque jour à ce jeune compagnon qui venait à peine de se marier. C'est un nouveau marié. Il demanda la permission chaque jour, vers midi. Il demanda la permission au prophète sallam s'il pouvait rentrer chez lui et son épouse, vers midi. Alors que les autres sahaba restaient pour surveiller que le mouchriquine ne traverse pas le fossé. Lui, il rentrait chaque jour chez lui. Un jour, vers midi, il demanda au prophète sallam la permission de rentrer chez lui. Dans sa famille, il dit, rentre, tu peux rentrer, mais prends avec toi ton arme. Il a pris sa lampe. Il dit, je crains la trahison de Banu Qurayza. C'était des juifs qui étaient des alliés des musulmans, mais Rasoul sallam craignait qu'ils trahissent. Qu'ils trahissent. Pourquoi? Parce qu'il a vu des exemples de juifs qui ont trahi chaque fois. Il dit, prends ton arme avec toi parce que je ne fais pas confiance à Banu Qurayza, ces juifs de Banu Qurayza. Ce jeune prit la lance avec lui. Arrivé devant chez lui, il voit sa femme, une nouvelle mariée, qui est debout devant la porte. Ah, il a eu la jalousie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait devant la porte? C'est pas la place d'une femme de rester comme ça devant la porte. Les gens qui passent et qui reviennent discuter avec le facteur, ils rigolaient, etc. Il prit sa lance, il a voulu même fuir son épouse. Par jalousie. Comme rapporte le hadith dans Sahih Muslim. Son épouse lui a dit, fais attention, attends. Avant de me dire quoi que ce soit, avant de me frapper, avant de me tuer, rentre à la maison et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il est rentré vite chez lui. Il a vu un serpent, un grand serpent chez lui à la maison. Il a compris pourquoi elle est sortie. Elle ne pouvait pas rester. Il a pris sa lance. Il a tué le serpent. Il a tiré sur le serpent. Mais le serpent, avant de mourir, il a attaqué ce jeune, Médinois. Il l'a tué. Et tous les deux sont morts. Et Sahaba ont été chez le prophète en disant, Ya Rasulallah, Oud'u Allah an yuhiyahu lana. Prie Allah Azza wa Jal de le ressusciter pour nous. Il n'a pas accepté. Il a dit, faites des invocations pour lui. Estaghfirou li akhikoum, li sahibikoum. Prie Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Alors là, Rasulallah nous donne une règle. Il dit, Sahaba, si vous trouvez un serpent chez vous, à la maison, faut pas le tuer. D'abord lui demander de sortir. Et ce n'est qu'après trois jours que vous pouvez le tuer. Car il y a des djinns musulmans qui se transforment en serpents et qui rentrent chez vous à la maison. Ça, c'est une règle. Si tu trouves un serpent chez toi, tu lui demandes 3 jours, tu lui dis, par Allah subhanahu wa ta'ala, sors de chez moi. Après 3 jours, si tu le trouves encore là, tue-le. Parce que si c'est un djinn musulman, tu auras fait le nécessaire, comme a dit le prophète, s'il aime normalement, il sort, c'est un djinn musulman, il part. Si c'est un serpent, qui n'est pas un djinn, eh bien, Rasoul nous a ordonné de tuer les serpents. Si c'est un djinn mécréant, eh bien, tu peux le tuer, même sans lui demander. Alors, la règle, puisque tu ne sais pas s'il est mécréant ou pas, tu lui demandes. Après 3 jours, tu le trouves encore là, tu le tues, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasoul m'a fait exception pour les serpents de sorte. Donc, si on trouve un serpent à la maison, faut lui demander de sortir. Après 3 jours, s'il est encore là, tuez-le. Excepté 2 sortes de serpents, ne leur demandez jamais permission. Il faut les tuer directement. Lesquels? On s'en souvient, dit, comme dit Aïcha, notre texte authentique, Al-Absar wa dhut tufiyataini. Al-Absar wa dhut tufiyataini. Ce sont 2 sortes de serpents. Un qui s'appelle Al-Absar, qui est comme s'il avait la queue coupée, il est trop court. Même certains ulama, ils ont dit qu'il fait un peu plus d'un enfant. Il n'est pas grand, une trentaine de centimètres. C'est un serpent très très court, très petit. Le deuxième, il s'appelle Zotofiataini. Il a 2 traits blancs sur son dos. Ces 2 sortes de serpents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils font même tomber la grossesse de la femme. Si la femme, il les regarde, elle avorte directement. Si quelqu'un le regarde, il perd sa vue. Ça, c'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et le mu'min, le croyant, ne fait que accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Pour la forme se transformer en chien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Jabir ibn Abdillah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de tuer les chiens. Le prophète nous a ordonné de tuer les chiens. Aujourd'hui, vous trouvez des chiens, c'est les musulmans, dans son lit. Un caniche bien habillé, avec sa carte, son vaccin, chez les musulmans. Il rentre au magasin, il regarde, c'est un musulman. Qu'est-ce qu'il a entre ses mains là, pas moi, ça c'est un chien. J'avais dit le prophète, Amarana Rasulullah sallam bi qatl al-kilab, de tuer les chiens. Hatta, inna al-mar'ata taqdumu min al-badiyah bi kalbiha. J'avais dit, et même ça arrivait que les femmes venaient de la campagne, elles venaient de temps en temps, elles ne savaient pas que le prophète nous a ordonné de tuer les chiens. Et dès qu'on voyait un chien, on le tuait directement. Et ensuite, mais à la fin, le prophète nous a interdit de les tuer. وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانِ. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, ne tuez pas les autres, mais tuez le chien qui est tout à fait noir, qui n'a pas une autre couleur que le noir et qui a 2 points blancs au-dessus de ses yeux, car c'est un shaitan. Il a 2 points blancs au-dessus de ses yeux, car c'est un shaitan. Et après, je vais vous raconter une histoire, certaines histoires racontées par Cheikh Islam ibn Taymiyyah, que lui, il a vécu, rahimahullah ta'ala. Et on va revenir sur ce point du chien noir qui a 2 points blancs au-dessus des yeux, comme a dit le prophète sallam dans Sahih Muslim et Muslim Imam Ahmed, que il dit que ce chien est un shaitan. Ibn Taymiyyah dit, les djinns prennent la forme du chien noir et du chat noir, etc. Souvent la couleur noire, c'est là où le shaitan prend la forme, chez les animaux. Parmi le pouvoir qu'Allah Ta'ala a accordé à le djinn, c'est la rapidité du déplacement. Il peut se déplacer à une vitesse incroyable. Dans Surat al-Naml, verset 39, Surat al-Naml, la fourmi, bien les fourmis, Allah Ta'ala parle de l'histoire du trône de la reine de Saba, qui était mushrika. Elle n'était pas musulmane. Et qui était au Yémen. Sulaiman, le prophète Sulaiman était en Palestine. Sulaiman demanda aux personnes qui étaient autour de lui, il y avait ses ministres, il y avait, comme c'était un roi, Sulaiman, alayhi salam, il y a un prophète. il avait des savants avec lui, des pieux, des vertueux, il y avait des djinns avec lui. Alors, il leur demanda qui est capable d'aller chercher le trône de la reine du Saba, du Yémen jusqu'à Palestine. Un djinn redoutable, Ifrit, ça veut dire quelqu'un qui est très très fort parmi les djinns. Il proposa à Suleyman, il lui dit, أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَانِكَ. Il dit, moi je suis capable d'aller chercher le trône de la reine du Saba, du Yémen jusqu'à Palestine, jusqu'à la Palestine, avant que tu quittes cette réunion. La réunion elle dure peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, Allahu A'lam. La réunion elle dure pas longtemps, il va jusqu'au Yémen, il prend le trône de la reine du Saba et revient jusqu'à la Palestine. Regardez quelle vitesse de Al-Djinn, Allah Ta'ala a accordé Al-Djinn. Ils sont même capables de monter jusqu'au premier ciel pour aller chercher les informations, voler les informations. Ils le faisaient avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur aise. Ils montaient l'un sur l'autre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au premier ciel, qui est bien sûr très très loin, au-dessus de toutes ces étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, le premier ciel est encore au-dessus, car les étoiles décorent le premier ciel. وَلَقَدْ زَيَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Ils vont jusqu'au premier ciel, avant ils allaient à leur aise chercher les informations. Allah Ta'ala, comme dit le prophète en fait dans le hadith en sahih, quand il veut ordonner quelque chose aux anges, il leur donne à ceux qui sont au-dessus du septième ciel, et ceux-là, il y a Jibril, ils le transmettent à ceux du sixième, etc., jusqu'au premier ciel. Ils vont, par exemple, leur dire que demain, il doit se passer ceci et cela. Arriver, cette révélation arrive au premier ciel, Al-Jinn, Shayatin, ils essayent de prendre cette information et de la prendre chez Al-Kahin, chez les voyants, chez les sorciers, etc. Mais après l'avènement du prophète, ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont volé quelques informations, mais Allah Ta'ala leur a envoyé des bolides. C'est les étoiles filantes qu'on voit dans le ciel, pour les brûler. Alors là, ils se sont demandé, Shayatin, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Hier, on allait chercher les informations de Nihania, et aujourd'hui, le ciel est protégé contre Shayatin. Et Iblis n'est pas... Maintenant, il a déclaré l'état d'alerte sur Terre. Il a dit à ses soldats, il faut passer sur toute la terre et voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial. Ils ont été cherchés dans les pays sur terre, dans les quatre coins du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le prophète Mohammed en train de lire le Coran. Ah, ils ont dit, c'est ça. C'est l'avènement de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le ciel est protégé maintenant. On ne sait plus aller à notre aise. Ils vont chercher encore des informations jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont tués. Des fois, avant de faire parvenir l'information aux voyants, mais des fois, après l'avoir fait parvenir, ils sont brûlés, ils sont tués. Mais dans les deux cas, ils sont tués. Mais avant, le ciel ne s'est pas protégé. Maintenant, il est protégé, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a accordé à Al-Jinn le pouvoir et la force de fabriquer des choses et des instruments et d'inventer des choses que l'être humain ne peut pas faire. L'exemple cité par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, écoutez cet exemple, qui se trouve dans le 11e volume de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah de Al-Fatawa, page 309. Écoutez la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah quant à la force donnée par Allah Azza wa Jal et à la science donnée par Allah Subhanahu wa Ta'ala au djinn. Il dit que certains chouyours qui avait des contacts avec le djinn, m'a raconté à Ibn Taymiyyah, en disant que ce cheikh qui avait des contacts avec le djinn, il dit à Ibn Taymiyyah que le djinn lui faisait montrer sur une sorte de verre transparent, comme du verre transparent, il lui faisait montrer toutes les images et les informations qu'il veut voir. Ça ressemble à quoi? À la télévision. À la télévision. Ça ressemble à la télévision. Il dit inna al-jinn yurunahu shay'an barraq, quelque chose qui brille, mithl al-ma'i waz-zujaj, qui ressemble à l'eau et au verre. Wa yumathiluna lahu fihi ma yatlubu minhu min al-ikhbar bih. Ils lui font montrer les images et les informations qu'il veut. قال فأخبر الناس به. Ce cheikh bien dit, alors je transmets ces informations aux gens. Il leur dit qu'un tel, il est dans un tel pays. Un tel, il est dans une telle montagne, il est en train de manger maintenant. Il regarde les informations. ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي. والعياذ بالله. Il dit, ils me font, en plus de la TV, il dit, ils me font transmettre, ces djinns, ils me font transmettre la parole des gens qui me demandent secours et qui sont loin de moi. Quelqu'un, ça c'est du cheikh. Du cheikh, bien sûr. Quelqu'un qui dit à son cheikh, ah, cheikh, aide-moi. Il est à des milliers de kilomètres. Les djinns lui font transmettre cette parole. Il l'entend, cheikh. Il leur répond, ils vont transmettre à un téléphone, walkie-walkie. Et même certains savants d'aujourd'hui vont jusqu'à dire, certains savants, bien sûr ça, c'est à titre d'information, ils vont jusqu'à dire que même ce qu'on appelle les ovnis, les soucoupes volantes, ce ne sont en vérité que des djinns qui sont en train de se moquer des gens. Ces savants musulmans disent que à chaque époque, les djinns ils utilisent le moyen que comprennent les gens. À l'époque de Moussa, c'était la magie, la sorcellerie. À l'époque de Isa alayhi salam, c'était, la médecine était forte. Allah Azza wa Jalla a accordé à Isa le miracle de guérir de lépreux, l'aveugle de naissance, le sourd muet de naissance, etc. Pour montrer l'incapacité des médecins, pour montrer par Moussa l'incapacité des magiciens et des sorciers. Et que, aujourd'hui, les gens disent que la science, c'est leur nouveau ilah, wal'ayyadu billah, ils adorent la science. Et que le djinn essaye de se moquer des gens à travers la science. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire que c'est certain, 100%, ça, c'est un avis. C'est possible que c'est vrai et c'est possible que c'est faux. Allah. Est-ce que les djinns meurent? Ça, c'est la question pour tout le monde. Est-ce qu'ils meurent? Na'am. Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur terre, périra. Mais là, il faut détailler. Si on parle du shaitan, Iblis, il meurt pas jusqu'à Yawm al-Qiyam. Le père Iblis ne meurt pas jusqu'à Yawm al-Qiyam. C'est une demande qu'Allah Ta'ala lui a exaucée. Quand il a prié Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui accorder un délai de vie jusqu'à la fin du monde. Allah Ta'ala lui dit, innaka min al-munzarin. Eh bien, Allah Ta'ala lui a accordé cette demande jusqu'à Yawm al-Qiyam et restera vivant. Mais quant aux autres djinns, ils meurent. Ad-Dalil, à partir de Al-Qur'an Al-Karim, kullu man 'alayha fan, tout ce qui est sur terre, toutes les créatures vont périr, disparaîtront. Et plus clair et plus explicite, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Al-Bukhari, dans Kitab Al-Tawhid, livre de l'unicité, le dernier livre dans Sahih Al-Bukhari, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, a'udu bi'izzatika, الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Le prophète me disait dans son invocation, ô mon Seigneur, je cherche protection auprès de ta puissance, toi qui n'y a d'autre divinité que toi qui ne meurs jamais, alors que les djinns et les êtres humains meurent. Les djinns et les êtres humains meurent. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari, Rasulullah dit que le djinn meurt. Et il y a 10 minutes, on a vu l'histoire de le djinn musulman qui s'est transformé en serpent et qui est mort, qui est tué. Le djinn meurt. Quels sont les genres de djinns qui existent? Parmi les divisions qu'on peut faire, celle faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, asnaf ul djinn, cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bayhaqi, fil asma'i wa sifat bi isnadin sahih, al-jinnu ala thalatha, thalathati asnaf. Il y a 3 sortes de djinns. Fathuluthun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Une première sorte de djinns ont des ailes
ils volent dans le ciel. Et souvent on entend pour ceux qui font ruqya, et ceux-là sont les plus difficiles.
وَثُلُثٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ. La deuxième sorte de djinn, ce sont ceux qui prennent la forme des animaux, tels que les serpents, tels que les chiens, comme on a vu des exemples là tantôt. وَثُلُثٌ يَحِلُّونَ وَيَضْعَنُونَ. La troisième sorte de djinn, ce sont ceux qui changent des lieux chaque fois. Ils s'installent dans une maison ou bien quelque part, et puis après un certain temps, ils changent de maison, ils changent d'endroit. Ce sont les trois sortes citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut les diviser autrement à partir du Qur'an al-Karim. يمكن تصنيفهم حسب لقياس آخر كما في سورة الجن. Dans سورة الجن, Allah عز وجل dit de الجن, parlant de الجن, il dit وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. الجن dit que parmi nous, il y a des vertueux, salihun. Ça, c'est une première partie, première catégorie. Wa minna duna dhalika, les moins vertueux, kunna tara'iqa qidada, ils forment des sectes, comme chez les êtres humains. Dans les versets, dans Surat al-Jin, la même Surat, wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Il y a parmi nous des musulmans, il y a parmi nous aussi des injustes. Il y a des musulmans parmi les djinns et il y a des koufars parmi les djinns. Donc il y a les koufars, il y a les musulmans. Et parmi les musulmans, il y a les sectes. Parmi les koufars, il y a les sectes. Comme le cite le verset du Coran al-Karim. La guerre entre les djinns et l'être humain, c'est de là que vient l'importance de connaître le monde des djinns. Ce n'est pas que pour avoir des informations et des connaissances du monde de djinn. Parler de djinn, parce que ça fait partie de l'aqidah des musulmans. Et parce que chacun de nous est confronté à ce problème, notamment aujourd'hui. Dans beaucoup de familles musulmanes, il y a des problèmes. Il y a des gens possédés. Et au lieu de chercher le remède dans al-ruqya al-shar'iyya, dans le Coran al-Karim, dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la foi, dans le du'a, dans le tawbah, le repentir, l'obéissance d'Allah azza wa jal, où vont-ils chercher le remède? Chez qui? Rendez visite, quand j'en dis rendez visite, allez voir là où il y a al-Sahara, ici à Bruxelles, allez voir, attendez, restez là pendant 2-3 heures et observez qu'est-ce qui se passe. Des files de femmes musulmanes, je dis bien de femmes musulmanes surtout, j'en vois chaque jour, avec des fois même avec le hijab. Elles vont chercher quoi? La guérison. Chez qui? Chez un sahara. Faire du shirk, faire du kufr, wal'iyad billah. Connaître al-djinn et le monde de l'djinn pour connaître le remède et chercher le remède dans la religion, chercher le remède dans le Coran et le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الله تعالى في القرآن الكريم يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Qui te donne ce conseil? C'est Allah سبحانه وتعالى. Il dit الشيطان est certes pour toi un ennemi. Alors prends-le pour ennemi. C'est l'ordre d'Allah, prends-le pour ennemi. Les gens aujourd'hui, même parmi les musulmans, prennent الشيطان pour ami, pour allié. Ils vont chez lui pour chercher la guérison, pour chercher le remède. Tu leur dis, là, c'est du shirk. Ce que tu fais, c'est du kufr.
Ce que tu dis est vrai, mais tu vois, ce sahar, on dit qu'il est, masha'Allah, il est fort. Et quand il te donne un talisman, 2 jours après, tu es guéri. Et tu n'es guéri ni 2 jours après, ni 2 années après. Tu es un bon client pour lui. Alors, Allah Azza wa Jal te dit, prends-le pour ennemi. Et toi tu dis, prends-le pour allié. À partir de la première, du début de la création de l'humanité, al-Shaytan, al-Jinn ont déclaré la guerre à l'être humain, à notre père Adam alayhi salam. Qui a été la cause de son expulsion du paradis? C'était qui? Al-Shaytan, Iblis. C'est à cause de lui qu'il est sorti du paradis. Il a écouté al-Shaytan, et subhanallah, Qu'est-ce qu'il a dit Iblis à Adam? Adam, quand Allah Azza wa Jalla a créé, l'a mis au paradis, il a dit, tu as tout le paradis, tu peux manger tout ce que tu veux, prendre tout ce que tu veux, excepté cet arbre, ne touche pas cet arbre. Iblis, l'hasad, l'envie, la jalousie, il est venu chez Adam, il a dit, écoute Adam, veux-tu que je t'apprenne une chose très très importante, très bénéfique pour toi? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ Veux-tu que je t'apprenne où ça se trouve? L'arbre de l'éternité. Tu ne périras jamais si tu manges de cet arbre. Et tu auras un pouvoir éternel. La faiblesse humaine, Adam, il s'est dit, tiens, si je dois rester au paradis éternellement, bien c'est bien. Où est-ce qu'il est cet arbre? Il est là. L'arbre que Allah Ta'ala lui a interdit. Et Adam a mangé de cet arbre, Allah Ta'ala l'a chassé du paradis. Et Allah, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Ihbitu ba'dukum li ba'din adou. Vous êtes ennemis l'un pour l'autre. Adam et Shaitan, Iblis. À partir de ce jour-là, Iblis a juré de faire rentrer le maximum de gens de cette humanité en enfer. Wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Tous les égards. Sauf les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui sont élus, les croyants, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré, Iblis a juré de faire entrer avec lui les gens en enfer. Quand tu es né, à la naissance, qu'est-ce qu'il fait? Adoullah. À ta naissance, tu ne sais pas distinguer le bien du mal, ni le halal del haram. Il commence déjà à ta naissance. Et même avant, si le père ne dit pas de dua au moment des rapports avec son épouse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet enfant qui va être né, un shaitan va lui faire du mal. Comme dit le prophète sallam. Si quand tu as des rapports, tu veux avoir des rapports avec ton épouse, tu dis bismillah, Allahumma a'udhu, Allahumma jannibna ash-shaytan, wa jannibni ash-shaytan ma razaqtana. Si jamais tu as un enfant, eh bien, il sera préservé contre le shaitan. Eh bien, shaitan, il est tout le temps derrière toi. Avant ta naissance, il t'attend. Au moment de ta naissance, eh bien, il te frappe avec son doigt, comme a dit le prophète sallam. Que tout enfant qui est né, une fois, au moment de sa naissance, un shaitan, il vient lui donner un coup, avec son doigt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. L'enfant, il crie. Dès, une fois qu'il est mis au monde, il commence à crier. C'est un shaitan qui frappe cet enfant. Bien sûr, si on dit non, parce que l'air, etc., ça ne contredit pas ce qu'on voit pas, le monde invisible. Le fait que parce que maintenant il va inspirer de l'air, c'est pour ça que la poitrine, je ne sais pas quoi, commence à crier. Si c'est prouvé médicalement, ça ne contredit rien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Eh bien, al-shaytan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam yat'anu al-shaytanu fi janbayhi bi isba'ihi hina yulad. Tout enfant, quand il est mis au monde, al-shaytan vient le frapper avec son doigt sur son côté. C'est pour ça que l'enfant crie, excepté Isa et sa mère. Sauf Jésus et sa mère. Maryam. Pourquoi? Pourquoi l'exception des deux personnes? La mère de Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait comme dans Surat Ali Imran? Elle a fait l'invocation. Quand elle était enceinte, elle dit, Inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Elle a dit, la mère de Maryam. Elle a dit, Ya Rab, je cherche protection auprès de toi contre Shaitan pour mon enfant qui va naître et sa descendance. L'enfant qui va naître, c'est Maryam, sa descendance, c'est Isa alayhi salam. Allah Ta'ala a exaucé la prière de la femme de Imran, c'est-à-dire la mère de Maryam alayha salam. Quand tu vas dormir, qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il te laisse tranquille, il te laisse pas tranquille. Si tu récites Ayat al-Kursi, eh bien, tu es protégé. Sinon, il te laisse pas tranquille. Même dans ton rêve, il te laisse pas tranquille. Comme dit le prophète, ar-ru'ya thalath. Le rêve est de trois sortes. Ru'ya min ar-Rahman, min Allah. Un rêve, un songe qui vient d'Allah Azza wa Jal. Pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour te conseiller de faire tawba, etc. Wal-hulum wa ru'ya min ash-shaytan. تحزين من الشيطان un rêve qui vient du shaitan pour t'attrister va te montrer que ton père est mort ta mère est morte ton fils a eu un accident, que toi, tu as perdu ton travail, etc. Le prophète sallam, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète dit, « Il estaykada ahadukum min naumihi, fal yastantir, falafem. » Quand tu te réveilles, le matin, rince-toi le nez trois fois. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ Car le shaitan, il passe la nuit dans ton nez. Masha'Allah. Il passe la nuit dans ton nez. نَعَسْ خَيْشُومِ دِيَلْ Tu te rinces le nez trois fois. Pour ceux qui ne le faisaient pas. Quand tu dors, le shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, il vient, juste au moment où tu vas dormir, il vient nouer trois nœuds sur ta nuque. Et chaque fois qu'il noue un nœud, il te dit, dors, tu as devant toi une longue nuit, comme dit le prophète. Orkoun, dors, pourquoi? Pour te faire rater Fajr, la prière de Fajr. Dors, tout doucement, le lit est chaud, dors. Alors, si tu te réveilles à la prière de Fajr, si tu te réveilles à la prière de Fajr, tu invoques Allah Azza wa Jal, il va zakar Allah, tu invoques Allah Subhanahu wa Jal, les invocations qu'on connaît pour, quand on se réveille, mais quand on se retourne la nuit, on se réveille la nuit, il y a du'a à dire. Tu invoques Allah Azza wa Jal, il y a un nœud parmi les trois qui est défait. Tu vas faire les ablutions, le deuxième nœud est défait. Tu fais la prière, le troisième nœud est défait. Alors tu te sens actif, munashshat. Regarde quand tu te réveilles le matin, al-fajr. Tu te réveilles, tu fais l'invocation, et tu vas faire les ablutions, et tu vas faire la prière. MashaAllah, tu es content, tu es très actif. Mais si tu restes dormir, tu fais deux réveils, hein, tu mets deux réveils, une fois que tu les entends, tu essayes de faire ni vu ni connu. Tu les arrêtes tous les deux, pour dormir. Tu te réveilles à 10h du matin. Ah, là tu vas, les yeux gonflés, fatigué, paresseux, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سئل عن رجل نام ليلة حتى أصبح. On a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, que dis-tu de quelqu'un qui a passé la nuit? Il s'est endormi jusqu'au matin, après le lever du soleil, son aise, il s'est réveillé, surtout le week-end, quand il ne travaille pas. فقال, le prophète dit, ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Il dit, celui-là, الشيطان a uriné dans ses oreilles. أطبك الله عليك. الشيطان, il prend ses oreilles comme toilette. MashaAllah, gratuit. Quand tu manges et tu bois, alors Rasoul Salim te dit, mange avec ta main droite, bois avec ta main droite. Si tu dis pas bismillah, qui mange avec toi? Shaitan. Shaitan mange avec toi quand tu dis pas bismillah. Si, après 5 minutes, tu te rappelles que tu as oublié de dire bismillah, donc tu dis bismillah awwaluhu wa akhiruh, tu te rappelles du bismillah, tu lui dis bismillah awwaluhu wa akhiruh, Shaitan il vomit ce qu'il a mangé. Et tu, alhamdulillah, tu le vois pas. Alhamdulillah. Alors, ce soir, un jour, il était en train de manger. Et Sahabi qui a rapporté cette histoire dans le hadith Sahih, il dit, nous étions autour d'un plat en présence du prophète sallam. Et nous avions l'habitude d'attendre que le prophète commence avant nous à manger. On peut tirer de là que Sahaba, il laissait Rasul sallam, d'abord manger avant eux. Ça veut dire que quelqu'un, s'il est plus âgé ou là un savant, on le laisse par respect, comme il faisait Sahaba avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il le laissait commencer avant. Il dit, tout d'un coup, elle va, ka'annaha tudfa, comme si elle était poussée par quelqu'un, par Shaitan. Elle est venue, elle se précipitait vers le plat pour manger sans dire bismillah. Rasoul sallam a pris sa main avant qu'elle mange, sans dire bismillah. Et derrière elle, il y a un compagnon, Arabi, qui arrive, comme s'il était poussé par un shaitan. Et c'est vrai, il y avait un shaitan derrière eux. Il est venu en coup, précipité pour prendre une partie de cette nourriture sans dire bismillah. Un shaitan, a pris la main de ce compagnon. Rasulullah a dit, un shaitan a voulu que ces deux personnes mangent sans dire bismillah. Comme ça, ils mangent avec nous. Et ma main et la main du shaitan et la main de cette personne sont ensemble. Rasulullah a pris la main et la main du shaitan avec. Le shaitan a pris la main de ce bédouin pour la mettre dans le plat et le pousser pour qu'il mange sans dire bismillah.
Al-Shaytan ne se lâche pas même quand il sort de chez toi à la maison, de la maison. Tu veux sortir, tu dis pas de dua, eh bien il est avec toi. Tu dis dua, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Shaytan il dit, comme dira Safin, tanaha anhu al-Shaytan. Al-Shaytan il dit à l'autre, il dit, que peux-tu contre quelqu'un, kufiya, wa hudiya, wa wuqi, quelqu'un qui est guidé et qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui envoie deux anges pour le protéger. Tu dis cette invocation. Tu le dis pas, eh bien, le shaitan, il est avec toi. Quand tu vas faire tes besoins, tu dis pas l'invocation, eh bien, il est avec toi. Il te regarde. Tu dis pas bismillah, il regarde ta nudité. Comme dit Ali, radiallahu anhu, le voile entre toi et shaitan, c'est de dire, entre ta nudité et shaitan, c'est de dire bismillah. Quelqu'un qui dit bismillah, eh bien, shaitan ne voit pas sa nudité. Et à titre juste d'exemple, je vous raconte une histoire que j'ai racontée à certains frères, mais ce n'est pas un délit charri, c'est une histoire que je connais personnellement. Une femme qui était possédée par un shaitan, et chaque fois, ce shaitan prenait la forme de son mari. Quand le mari sort, il va au travail, le shaitan vient le remplacer. Il prend la forme de son mari avec une tête coupée. Et le sang qui coule. Comme ça, elle déteste. Il fait détester son mari. Et après, il vient pour faire des rapports avec elle, avec cette femme. Et quand on lui a demandé pourquoi tu as attaqué cette femme musulmane qui prie, il dit, c'est lui qui dit ça, il y a un jour, il était juste de passage, en volant, parmi ceux qui volent. Il était en volant, et il a aperçu cette femme devant le miroir, toute nue, sans invoquer Allah Azza wa Jal, elle se regardait dans le miroir. Et elle lui a plu, il l'a attaqué. On dit Ali, radiallahu anhu, dire bismillah, c'est un voile entre toi, entre ta nudité et al-shaytan. Et bismillah, c'est court, c'est... Non, on peut dire bismillah, sinon on dit bismillah, c'est suffisant. La métrorragie, al-shaytan peut provoquer des maladies physiques, notamment pour la femme, la métrorragie, la perte de sang chez les femmes. Le professeur me dit, rakdatun min rakadati shaitan, c'est un coup du shaitan, c'est un coup de shaitan qui donne un coup sur les veines. Eh bien, il y a cette perte de sang. C'est une maladie provoquée par shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Hassan rapporté par Abu Dawud et Nasa'i, etc. Innama hadihi rakdatun min rakadati shaitan. Et même la peste, الطاعون لا peste. الرسول صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Ahmed al-Tabarani dans صحيح الجامع والنخوه ce hadith فناء امتي بالطعن والطاعون واخذوا اعدائكم من الجن وفي كل شهاده. Il dit que la peste vient de al-jin. Et au moment de la mort, le shaitan est encore présent devant toi. Parce que chacun de nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha dans le hadith sahih, que chacun de nous a ce qu'on appelle, il a un compagnon de djinn qu'on appelle Al-Qarim, un compagnon de djinn, chacun de nous. Combien il y a sur terre d'êtres humains? Maintenant, 5 milliards ou 6? 10 ans 6. Eh bien, chacun de ces 6 milliards a un Qarim. Ce Qarim ne te lâche pas jusqu'à la mort. Et au moment de la mort, il vient t'éprouver, te faire le fitna. Il essaye même de te mettre dans la mécréance. Au moment de ta mort, au moment de l'agonie, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, dans le dua, comme rapporte le Nasa'i dans le hadith sahih, al-Hakim, Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dua, mon Seigneur, protège-moi de tomber d'un toit, du dessus d'un toit, at-taraddi. Ou al-hadm, ou bien de mourir en dessous d'un toit qui s'écroule. Ou al-gharaq, ou bien noyé. Ou al-haraq, ou bien brûlé. Wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-mawt. Et préserve-moi contre le shaitan au moment de la mort. Wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira. Et préserve-moi de mourir dans le jihad en fuyant la guerre. Wa a'udhu bika min al-mawt ladighan. Et protège-moi contre les morsures des animaux, tels que les serpents
et les scorpions, il a akhir. Donc le shaitan ne te lâche pas. Qu'est-ce que veut shaitan de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi, de l'être humain? En premier lieu, il veut te mettre dans le coffre, dans la mécréance. Il essaie de te mettre dans la mécréance. Comme dit Allah Azza wa Jal dans surat Al-Hashr, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء بريء منك. الشيطان il dit à l'homme de mécroire en Allah Azza wa Jal. Mais une fois qu'il mécroit, qu'est-ce qu'il lui dira يوم القيامة الشيطان? Je te connais pas. Smahni, mais je te connais pas. إني بريء منك. Je te connais pas. Tu vas lui dire, ce kafir, il va lui dire, Ya Rab, mais c'est à cause de lui que je suis kafir. Le shaitan dit non, moi je te connais pas. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je vous ai appelé vers la mécréance et vous avez obéi. Faut pas m'en vouloir. Et le prophète sallam dit de Allah Azza wa Jal, que Allah Ta'ala dit إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَا فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ. J'ai créé les êtres humains حُنَفَا sur la religion du fitra. Le nouveau-né, quand il est né, l'enfant, quand il est né sur le fitra, musulman. Et ces shayatin qui les mettent, bien sûr, par, soit par l'éducation des parents ou autres, qui les mettent dans la mécréance. Et le premier peuple qui a mécru, c'est le peuple du prophète Nuh alayhi salam. Quand shaytan est venu leur suggérer de fabriquer les statues pour représenter leurs savants, après ils ont adoré et sont tombés dans le shirk, dans le coffre. À cause de qui? Shaitan. S'il n'arrive pas à mettre la personne dans la mécréance, il essaie de les mettre dans les péchés, dans le ma'as. Le ma'as, les grands péchés, les petits péchés, etc. Al-Rasul alayhi salatu wa salam dit dans le hadith al-Hassan rapporté par Tirmidhi ibn Majah, « Ala inna shaitan qad aïsa an yu'bada fi baladikum » et dans un autre hadith, « fi jazirat al-Aram » ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها. Et dans l'autre hadith, ولكن في التحريش بينكم. Le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Que le shaitan est désespéré de, des musulmans, en général, qui vont pas nier leur foi, ni leur religion, de devenir du kuffar, en général. Mais, ils se contentent de quoi? Là où il n'a pas désespéré, c'est de répandre le conflit, la dispute entre les musulmans. De diviser les musulmans. Là, il n'est pas désespéré à Shaitan. Et s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye d'obstruer le chemin de l'obéissance, de se mettre entre toi et le chemin de ta'a, de l'obéissance. As-sabdu an ta'atillah. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Shaitan se met sur le chemin de l'homme, l'être humain, pour qu'il ne devienne pas musulman. Il dit que l'être humain a su combattre al-Shaytan et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Al-Shaytan s'est mis sur le chemin de l'être humain, maintenant qui est musulman, parce que celui qui n'est pas musulman, il vient lui dire, quand il veut devenir musulman, comment tu laisses la religion de ton père, de tes grands-parents? Inna wajadna aba'ana ala umma, comme ils ont dit à tous les prophètes, on ne peut pas laisser la religion des parents. Est-ce que tous les parents pendant 2000 ans, ils sont dans l'égarement? C'est pas possible. Alors Shaitan, il vient par là pour dire à quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, regarde la religion de tes parents. Mais quand il devient musulman, maintenant il vient au musulman. Il lui dit, quand il veut faire l'hijra, comme dit le prophète sallam, émigrer fi sabilillah, il lui dit, comment tu vas laisser ton pays natal, laisser tes amis, tes voisins, et tu vas quitter tout ça? Et le musulman désobéit à Shaitan et obéit à Allah Azza wa Jal, il part. Il vient ensuite lui obstruer le chemin du djihad. Quand il veut faire le djihad, il lui dit, tu vas aller faire la guerre, tu vas mourir, on va te tuer. Et tu laisses derrière toi ton épouse. Elle va se remarier après toi. Tu laisses tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ce croyant ne l'écoute pas et il va faire le djihad. Alors Rasulullah dit, celui qui va faire ça et qui n'écoute pas Shaitan, il va au paradis. Allah Ta'ala lui a garanti le paradis. Qu'il meure dans la bataille, ou qu'il meure sur le chemin, ou qu'il meure de maladie sur le chemin, il ira vers le paradis. Ensuite, Shaitan essaye de te faire annuler les actions que tu fais. Tu es un bon musulman, masha'Allah,
qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il ne peut pas te mettre dans la mécréance, ni dans le péché, ni t'empêcher de faire ta'at, les bonnes actions. Il essaye de te faire annuler les bonnes actions, par l'ostentation riya, etc. Le compagnon, Uthman ibn Abi al-As, le hadith il est dans le Musnad de l'imam Ahmed, et dans les autres livres de la Sunna, dans Sahih Muslim, le hadith de Uthman ibn Abi al-As, c'est un compagnon qui était un gouverneur sur Taif, la ville de Taif, au sud de la Mecque. Et il ne pouvait pas faire sa prière convenablement. Le shaitan, il venait chaque fois. Dès qu'il commençait sa prière, il venait. Il le dérangeait dans la prière. Il l'empêchait de savoir combien il a fait de raka'at, ni de prosternation, et de prosternation. Il est venu, ce compagnon, chez le prophète. Il dit, ya Rasulallah, je ne sais plus faire ma prière convenablement. Chaque fois, et dans une autre version, il dit, j'ai un mal. Je sens quelque chose qui me fait mal. Il lui dit, je ne sais pas faire ma prière convenablement. Je ne sais pas combien je prie. Alors, Allah Sallam, il lui dit, ouvre ta bouche. Il ouvre sa bouche. Alors, Allah Sallam, il lui a soufflé dedans, trois fois, trois reprises, en disant, irsa adou Allah. Sors dans une version, okhruj adou Allah. Sors de là, adou Allah, l'ennemi d'Allah. Il lui frappe sur sa poitrine trois fois, il part. Il est parti, ce compagnon. Allah Sallam, il a dit, une phrase. Okhruj adou Allah. Aujourd'hui, certains, quand ils font ruqya, le hrawa, l'électricité, le bhor, je ne sais pas quoi, il y a toute une valise pour faire ruqya. Deux mots. Le Hassan, il est sorti. Il est parti. Ce sahabi, il dit, à partir de ce jour-là, je n'ai jamais rien senti. Une fois. Eh bien, le shaitan, il veut, pourquoi j'ai cité cette histoire, il veut te faire gâcher ce que tu fais comme bonnes actions. Dès que tu commences, Allahu Akbar, il vient te rappeler le dunya. Te rappeler qu'est-ce que tu as oublié, qu'est-ce que tu n'as pas fait, le rendez-vous que tu attends, que tu as manqué. Toutes les choses de dunya te rappellent dès que tu commences la prière. Mais quand il y a l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il s'enfuit. Dès que tu arrêtes, il vient. Tu fais takbir, il vient directement chez toi pour le waswasa. Où ça se trouve le quartier général du grand shaitan Iblis, sur la mer? Il se trouve sur la mer, comme dit le prophète sallam dans Sahih Muslim, que chaque jour shaitan, le grand shaitan Iblis, dans son quartier général, il rassemble ses soldats pour leur donner des missions à faire et à accomplir. Alors, quand ils reviennent, ils demandent à chacun, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donne-moi ton rapport, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi j'étais chez deux amis, jusqu'à ceux qui se sont insultés, etc. Il lui dit, j'accepte mais t'as rien fait. Va-t'en. Il appelle un deuxième, un troisième, etc. Et un, il lui dit, j'ai insisté entre un mari et son épouse jusqu'à ce qu'ils ont divorcé ou bien séparé. Il dit, ni'ma'in, toi tu es le meilleur. Toi tu es le meilleur. Et regardez combien de musulmans qui obéissent à Shaitan. Et qui font gagner des cadeaux à Shayatin sur leur dos. Mais dire que le trône se trouve sur la mer, c'est Rasul. Hadith, il est dans Sahih Muslim. Arshu ala al-bahr, yada'u arshu ala al-bahr. Il met son trône sur la mer. Mais où ça se trouve exactement? Allahu a'lam. Dire que c'est le triangle de Bermude, Allahu a'lam. Tout est possible, mais Allahu a'lam. Est-ce que le djinn peut rentrer dans le corps d'un être humain? Est-ce qu'il peut rentrer dans le corps de l'être humain? Eh bien, l'ayah de l'usure qui parle de riba, dans surat al-Baqara, riba, les intérêts, qu'on appelle aujourd'hui les intérêts, et ça aussi c'est un piège de shaitan. Il utilise des mots qui ne sont pas dans le Coran, ni dans la Sunna, pour te faire croire que c'est pas haram, les intérêts. Mashallah, les intérêts, tout le monde cherche les intérêts. Il dit pas que c'est riba, c'est les intérêts. La chanson, la musique, hein, c'est de l'art. Et ça apaise le cœur. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il lui a pas dit, viens Adam, veux-tu que je te montre une chose qui va te faire chasser du paradis? Il a pas dit ça. Est-ce que tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité? Il a utilisé un mensonge. Comme dans le riba. Allah dit dans le Coran, dans surat al-Baqarah,
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent, qui pratiquent les intérêts, l'usure, ne se tiennent يوم القيامة, le jour de la résurrection, que comme se tient dans dunya celui que le toucher de Satan a bouleversé. Il est touché par Shaitan. الإمام القرطبي, الإمام ابن كثير, الإمام الطبري, الإمام الألوسي, الإمام ابن تيمية et toute une série de grands savants de l'islam ont tiré à partir de cette ayah que الشيطان, que الجن peut posséder, peut rentrer dans le corps de l'être humain, comme l'aqida de Ahl al-Sunnah. À partir du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya'la ibn Murrah, ce compagnon dit que j'ai connu une histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'autre parmi les compagnons ne connaît. J'étais en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans Silsila Sahiha, il est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Famararna bimra'atin jalisa. Nous sommes passés devant une femme qui avait un enfant avec elle. Cette femme était assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou bien c'est elle qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, hadha sabiyun. Elle lui a dit que cet enfant, il tombe à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour il tombe. Il est possédé. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause de ça. Qala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Nawilini, donne-moi cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses mains. ثم فغرساه. Il lui a ouvert la bouche. فنفس فيه ثلاثا. Il lui a soufflé trois fois dans sa bouche. وقال. Il dit صلى الله عليه وسلم بسم الله أنا عبد الله أخرج عدو الله. Il dit بسم الله je suis le serviteur d'Allah, sors toi ennemi d'Allah. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a remis cet enfant à sa mère. Il est reparti avec son compagnon. Il dit à cette femme, quand je serai de retour, je vais passer près de chez vous, alors tu me diras quoi, qu'est-ce qu'il y a. Quand le prophète était de retour avec son compagnon, ils ont rencontré cette femme, ils ont demandé, il dit qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant. Elle a dit, Ya Rasulallah, à partir de ce jour-là, Alhamdulillah, il est sain et sauf, il est guéri. Elle avait trois brebis, trois moutons, elle voulait les donner tous les trois au prophète. Le prophète n'en a pris qu'un seul, il est parti sallallahu alayhi wa sallam. La femme noire Sauda, qui est connue par ce nom, ce surnom dans le hadith du prophète, qui tombait chaque fois qu'il était masroua, il était touché, elle tombait. Elle a demandé au prophète, elle dit, Ya Rasulallah, prie Allah Azza wa Jal de me guérir. Rasulallah, il lui dit, choisis, si tu veux que je prie Allah Ta'ala de te guérir, je le ferai. Mais il y a mieux que cela, c'est que tu montres l'endurance et la patience et je te garantis le paradis. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, Ya Rasulallah, je préfère le paradis même si je dois rester malade. Mais prie Allah ta'ala de ne pas découvrir ma nudité quand je tombe dans l'évanouissement. Alors Rasulallah a prié Allah ta'ala pour qu'elle ne se découvre pas, mais elle est restée malade jusqu'à sa mort. C'est pour ça que Sahaba, quand ils voyaient cette femme, ils se disaient entre eux, vous voulez qu'on vous montre une femme du paradis? Regardez cette femme, c'est une femme du paradis, qui ira au paradis. Pourquoi? Parce que Rasulallah lui a garanti le paradis. Est-ce que les djinns connaissent, on arrive bientôt inchallah à la fin, est-ce que les djinns connaissent le futur, le ghaïb? Hal ya'lamoun al ghaïb? Ceux qui disent qu'on va chez un sahar, parce qu'il dit des choses du futur, que nous ne connaissons pas, ou bien que personne ne connaît, excepté moi. Et quand je vais chez ce Sahar, il me dit des choses que personne ne connaît. D'où ça vient? Eh bien, Shayatim, ils connaissent le ghaïb. Eh bien, nous, Alhamdulillah, le croyant, les musulmans, doivent être certains, que seul Allah Azza wa Jal connaît le ghaïb. Ou bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le domaine que Allah Ta'ala lui a enseigné. Mais ce qui va arriver dans le futur, si Allah Ta'ala ne l'apprenne pas à quelqu'un, personne ne peut le savoir. Ça c'est la règle de base qu'on doit retenir. Al-Shaytan, qu'est-ce qu'il fait? On a vu là, depuis une demi-heure à peu près, que le djinn montait vers le ciel pour prendre des informations.
Eh bien, c'est ces informations qu'il donne à Sahar pour lui dire une information, parce qu'on a dit au prophète, ils ont dit que certains sorciers disent la vérité, ils disent, ils nous parlent des choses du futur qui arrivent. Alors, Sahar dit, cette information est volée par Shaitan, il la mélange avec son mensonge. Son mensonge avec une chose qui est vraie. Mais toi, quand tu vas chez Sahar, tu dis, maintenant, 200 mensonges. Et avec ces 200 mensonges, il y a une information qui est vraie. Tu oublies tout le reste. Ah, mashallah. Il m'a dit que lundi prochain, je vais partir en voyage. Mashallah, lundi d'après, j'étais en voyage. Et ça, tout ça, ça fait partie de la fitna de Shayatin. Il faut pas croire à Shayatin. Dans l'histoire de Suleyman. Suleyman, quand il est mort, alayhi salam, à sa mort, Shayatin avait peur de Suleyman. Ils avaient très peur de Suleyman. Et ils ne pouvaient pas lui désobéir. Et il était assis sur son trône. Il avait une canne, comme il était âgé, il avait une canne entre ses mains. Dans sa main, il avait une canne. Et même après sa mort, il est resté assis sur son trône. Pendant une longue période. Il avait la canne. C'est grâce à cette canne, après Allah Azza wa Jalla, qu'il est resté. Il n'est pas tombé. Grâce à cette canne. Il est resté assis. Shayatin était de passage, il le voyait, il disait, il est encore là, il le regarde. Hein. On ne peut pas désobéir. Il travaillait pendant je ne sais pas combien de mois ou bien d'années. Il continuait à travailler. On ne peut pas désobéir. Alors que Suleyman est mort. Et comme le corps des prophètes ne se décompose pas, comme a dit le prophète en les corps des messagers prophètes ne se décomposent pas, ils restent intacts. Eh bien, jusqu'à ce que une bête, les termites, c'est elle qui a, après je ne sais pas combien de mois, a cassé, après avoir mangé toute cette canne, Suleyman est tombé par terre. Ce n'est que là, djinn, ils ont dit, ah, mais il est mort. Après combien de temps? S'ils connaissaient le raïd, pourquoi ils n'ont pas su que Suleyman est mort? S'ils savaient ce qui se passe, hein, dans le futur, ils connaissent le raïd, ils auraient au moins su que Suleyman est mort. Comme dit le Coran al-Karim, cette histoire est racontée en détail dans le Coran al-Karim, vous n'avez qu'à revoir dans Surat Saba, verset 14. Ils sont restés dans la souffrance, dans la construire, aller chercher des terres, chercher du matériel, etc. pendant je ne sais pas combien de temps, alors que Suleyman est mort, alayhi salatu wa salam. Et on a vu que quand le prophète est envoyé par Allah Azza wa Jalla comme prophète, ils n'ont pas su à cause de quoi le ciel est protégé. Ils devaient aller chercher. Y a-t-il des messagers parmi les djinns? Y a-t-il des prophètes et des messagers parmi les djinns? L'avis le plus fort qui est celui de Jumhur, qu'il n'y a pas de messagers parmi les djinns. Que tous les messagers et prophètes viennent des êtres humains. Et que chez les djinns, comme dit Ibn Abbas et une minorité de ulama, disent que chez les djinns, il n'y a pas de messagers, mais il y a les avertisseurs, al-nuzur, les avertisseurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent écouter et apprendre des prophètes et à les transmettre, wallaw ila qawmihim munzirin, à les transmettre à leur peuple. Mais qu'il n'y a pas de prophète, comme dit Hassan al-Basri et d'autres ulama, qu'il n'y a de prophète ni dans le monde des djinns, ni parmi les femmes, ni parmi les compagnons. Que tous les prophètes viennent des hommes parmi les êtres humains. Je termine avec quelles sont les causes qui permettent à Shaitan d'attaquer et de posséder, d'avoir le pouvoir sur l'être humain. Al-Kufr, la mécréance et shirk. Quelqu'un qui est kafir, qui est mécréant, qui est mouchrik, il est entre les mains de Shaitan. Shaitan, il fait de lui ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Maryam, verset 83, أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? La mécréance, ça veut dire que la personne est entre les mains du shaitan. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, verset 27, nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas. Il y a un point. Deux, les péchés, al-ma'asi. Plus tu commets les péchés, plus tu deviens faible. Quand tu es obéissant à Allah Azza wa Jal, tu as l'iman, tu deviens fort. Al-shaytan, il devient faible. Mais quand tu as commis des péchés, c'est toi qui deviens faible et lui devient fort. Ton cœur, il est affaibli par les péchés. Cette protection, tu n'as plus comme avant. Alors il sait t'attaquer facilement, te mettre encore plus dans les péchés. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الله تعالى dit de compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم dans la bataille de Uhud, certains que à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont désobéi au prophète صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela qu'ils ont certains ils ont fui la bataille dans sourate Ali Imran verset 155. La maison où il y a les photos, où il y a les statuettes, où il y a le chien. Là, il n'y a pas les anges qui rentrent, comme dit le prophète sallam. Inna al-mala'ikata la tadkhulu baytan fihi suwarun wa la tamathil. Dans le hadith, l'autre hadith, wa la kalb. Les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a les photos, ou bien où il y a les statues, ou bien où il y a le chien. S'il n'y a pas le mala'ika, qui va rentrer? C'est le shayatin. Si tu as une cloche avec toi, eh bien, tu es accompagné par Shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tashabu al-mala'ikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras. Si un groupe sont accompagnés par un chien, bien par une cloche, hein, eh bien, ils ne sont pas accompagnés par le mala'ika. Ils sont accompagnés par Shayatin, comme dans le sahih muslim. Al-jarasu mazamir al-shaytan. Celle, la femme qui montre sa parure, Ad-Zina, eh bien, elle est accompagnée par Shaitan. C'est lui qui fait embellir cette femme pour tenter les hommes. Cette marsia, c'est à cause d'eux, elle attire à Shaitan. Al-Riba, comme on vient de voir, la négligence des invocations. Oubliez le dhikr, l'ad'iya. Alors, ça, c'est nous a enseigné toute une série de dhikr avant de sortir, quand tu rentres, quand tu te réveilles, avant de dormir, avant de manger, à la fin du manger, avant de s'habiller, etc. Toute une série d'invocations de zikr. La yazalu lisanuka rakban li zikrillah, comme a dit le prophète sallam, un sahabi. Eh bien, quelqu'un qui laisse tomber ses invocations, eh bien, il est exposé à shaytan, à l'attaque de djinn et de shayatin. La colère excessive. Quelqu'un qui se met en colère. Le prophète, quand il vit un jour, il a vu deux compagnons s'insulter. Et un des deux s'est mis en colère, une colère incroyable. Il dit, moi je connais une parole. S'il dit cette parole, eh bien, il va se calmer. C'était quoi? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, cette parole contre la colère. At-tasa'uf, quand on baille. Hein, certains, il ouvre sa bouche, masha'Allah, il ne met pas sa main sur sa bouche. Alors ça, c'est l'ami nous a appris de mettre la main sur la bouche quand tu bailles. Sinon, le shaitan, il rentre dans ta bouche. Le shaitan, il rigole de toi. Comment faire face au diable? Un, obéir à Allah Azza wa Jalla et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iltizamu al-kitab wa sunnah. Suivre le Coran et la sunnah du prophète sallam. Avoir l'iman. Avoir son dogme qui est correct. Pas le khurafat. Avoir, quand tu es l'aqidah, ta aqidah, elle est correcte. Tu es sûr et certain que ce diable, ce shaitan, ce djinn dont on a parlé pendant deux heures, qui a tous ses pouvoirs, Allah Ta'ala dit de lui, inna kayda shaitani kana ba'ifa. Les pièges de Shaitan sont faibles. Tous ces djinns qui ont tous la foi. Si tu as la foi, tu as l'iman, tu as l'aqida, tu pratiques ta religion, Shaitan devient devant toi très faible, comme dit Allah Azza wa Jal. Inna kayda shaitan kana da'ifa. Tu sais que le djinn, le Shaitan, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que malgré qu'on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait, eh bien, il ne peut rien te faire comme mal. Si tu es un vrai croyant. Sauf si Allah ta'ala le veut. Amma croit. Chez nous, il disait que si tu frappes Douf al-Bendir, le shaitan il s'enfuit. Regarde l'aqidah qu'il fait. Abdurab al-Bendir, Ghanniri, le tambourin, eh bien le shaitan il s'enfuit. D'autres, il dit si tu tires avec un fusil, il s'enfuit le shaitan. Aqidah, khawiya. Le shaitan, il est créé par Allah Azza wa Jal. Et toi, tu as la force et tu as le pouvoir de le combattre. Al-iqsar min at-ta'at, essaie de faire beaucoup de bonnes actions. Ça t'aidera à voir, à acquérir la foi, l'iman, et de faire face à Shaitan. Si tu fais la prosternation quand tu entends la récitation du Coran al-Karim, au passage où il y a la prosternation des versets, où il est recommandé de faire une prosternation, al-sajda. Eh bien, quand tu entends ces versets, tu vas te prosterner, Shaitan pleure. Il dit, ya wa ilah, malheur à moi, Allah m'a ordonné de se prosterner pour Adam, devant Adam, et j'ai refusé, j'irai en enfer. Il a ordonné à Adam de se prosterner quand il lit, le fils d'Adam, les enfants d'Adam, nous, quand nous lisons le Coran, ils ont obéi, ils auront le paradis. Plus tu fais l'obéissance, tu lis le Coran al-Karim, tu fais le nawafil, etc., tu feras face à al-Shaytan. Quand tu lis surat al-Baqarah chez toi, al-Shaytan, il part. Tu fais l'adhan, il part. L'isti'ada, chercher protection, dire « A'udhu billahi min al-Shaytan al-Rajim ». C'est une arme très forte contre al-Shaytan, comme dit al-Qur'an al-Karim, « Wa qur rabbi, a'udhu bika min hamazat al-Shayatin, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ». Quand tu vas aux toilettes, tu dis « Allahumma inni a'udhu bika », tu cherches la protection près d'Allah contre les démons mâles et femelles, contre la colère, tu cherches la protection près d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vas avoir des rapports avec ton épouse, tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand tu entends un âne qui est, eh bien, comment on appelle la voix de l'âne? Comment ça s'appelle? Rugir, c'est pour les lions. Braille. Eh bien, Nahiq al-Shimar rapporte Tabarani, bi sanadin sahih, qu'il est recommandé de dire A'oud billahi min ash-shaytan ar-rajim. Fasta'id billah quand tu entends l'âne. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir Ash-Shayatin. C'est plus qu'une infrarouge. Pour faire face à Ash-Shayatin, surtout pour les enfants, faire ce que faisait le prophète sallam pour Al-Hassan et Al-Hussein. Alors sallam, il leur faisait des invocations avant la révélation de Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbil Nas. Il disait U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli 'aynin lammah. Il prie Allah Ta'ala de le protéger contre les mauvais yeux et contre Shayatin. Il disait, cette invocation était utilisée par Ibrahim pour Ismaïl et Ishaq. Mais quand Allah Ta'ala révèle au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ouvert le falak, qu'il a ouvert le nas, il récita les deux sourates pour protéger les enfants contre Shaytan. Qu'il a ouvert le falak, qu'il a ouvert le nas. Avant de dormir, ayat al-Kursi, avant de manger, boire, bismillah, du'a, avant de sortir, avant d'entrer, etc. Et même quand tu... Ça arrive des fois, on passe sur une pierre, eh bien, un objet, et on faillit tomber par terre. Qu'est-ce qu'on dit? Wallahi na'al shaitan. Certains disent, Wallahi na'al shaitan. Que le shaitan soit maudit. Le shaitan, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Comme dit le prophète, quand il entend ça, il dit, Masha'Allah, c'est moi qui l'a fait tomber. Alors il gonfle, il devient fort et grand. Quand ça nous dit, faut pas dire, ta'is au shaitan. Pas maudire le shaitan. Mais dis bismillah, comme ça il devient comme une mouche. Parmi les moyens qui te font gagner la bataille contre shaitan, bien sûr, j'ai cité en bref, c'est connaître les pièges de shaitan. C'est très important de connaître les pièges du shaitan. Taswif. Le shaitan, parmi ses pièges, taswif. Reporter. Tu veux faire une bonne action, tu dis, pour demain, inchallah. Demain, tu veux la fête, tu dis, mais c'est pas grave. La semaine d'après. Tu veux sadaqa fi sabilillah, tu dis, non, t'as pas de monnaie. Laisse, pour après. Tu veux aller à la mosquée, tu dis, ma'alish, laisse, jusqu'à demain. Chaque fois, il essaie de reporter, pour te faire perdre al-hasanat. Deux, parmi ces pièges, at-tamanni, te faire espérer. J'espère, inshallah, que j'irai au pèlerinage. J'espère un jour faire la prière. J'espère un jour porter le hijab. J'espère, tu peux toujours espérer. At-tasbit, ce qu'on appelle at-tasbit. Tasbit, toujours essayer de te casser. T'as envie de faire quelque chose. Il vient te dire, même s'il envoie, il t'envoie des fois un ami. Tu veux faire, par exemple, un projet pour les musulmans. Il vient te dire, mais tu arriveras jamais. Regarde tes frères, ils ont essayé, mais ils ont raté. Ils ont échoué. Il essaie de te mettre dans le désespoir. Chaque fois, il essaie de te casser. Tu veux faire un commerce, tu dis, mais tu vas jamais. C'est, non, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas faire faillite en 2 mois. Où est-ce qu'il est tawakkul sur Allah Azza wa Jal? Ça fait partie des pièges du shaitan. At-tadarruj fil idlal. Il essaie de t'égarer progressivement, pas d'un seul coup. Allah il dit, wa la tattabi'u, khutwa fil shaitan, pa pa pa. De la mécréance jusqu'à te faire perdre al-hasanat. Progressivement. Faut pas lui donner la chance de te faire rater al-hasanat. Parce qu'il vise à long terme de le faire rentrer en enfer. Te faire oublier le bien. Même des fois, il te fait oublier le bien, comme il y a le Coran al-Karim, il y a l'histoire de Moussa dans son Atikas, etc. Te faire peur. Quand tu veux faire une chose, il essaie de te faire peur. Non, attention, fais pas. Car la caméra qui te regarde. Un jour, j'ai dit aux frères, à hein, quelque part, tellement certains, ils avaient tellement peur, hein, ils ont vu une parabole. Parabole. Il a dit, attention, il y a une caméra qui nous surveille. Une parabole, une antenne. Et cette antenne, c'était le couvercle du marmite. Et chauffe, la peur, le shaitan, il se dit, tu ne vas pas faire jihad. Tu vas mourir. Tu ne vas pas. Il dit à la femme, ne porte pas le hijab. Ne porte pas le hijab parce que ton père, il sera en colère contre toi. Il essaie de te faire peur, non, si jamais je dis à ma femme, comment je peux dire à mon épouse de ne pas s'asseoir avec l'ikhtilat quand il y a la mixité muharrama interdite, je vais blesser mon père, et j'ai peur de blesser mon père, je vais blesser ma mère, et j'ai peur de blesser ma mère. Allah Ta'ala, il dit, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Il dit, ça c'est le shaitan, il fait peur à ses alliés. Faut pas avoir peur de lui. Ayez peur de moi, Allah Azza wa Jal. وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Il essaie de te donner des faux espoirs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je m'arrête là. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه. Normalement, je voulais citer 2-3 exemples concrets qu'a cité Cheikh Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى en parlant de certains exemples que lui il a vécu. Il parlait de quelqu'un qui volait, au temps de Ibn Taymiyyah, il volait dans le ciel, que les gens voyaient. Et c'était shaitan, il avait un shaitan avec lui, qui l'aidait pour voler. Alors celui-là profitait des gens, de l'ignorance des gens, il disait que moi, je suis quelqu'un qui fait des miracles. Il volait. Et même il y avait quelqu'un qui a raconté à Ibn Taymiyyah, il dit, c'est un cheikh dans l'âge. Il a dit à Ibn Taymiyyah, il commettait, wal'iyadu billah, cet homme, il commettait l'adultère avec les femmes, et même, il agressait les enfants, et il faisait toutes sortes de haram. Il avait avec lui un shaitan, et qui venait sous forme d'un chien noir avec 2 points blancs au-dessus de ses yeux. C'est lui qui a raconté ça à Ibn Taymiyyah. Il était un kafir. Cet homme, il se disait musulman, il était carrément un kafir. Pourquoi? Parce qu'il demandait aux gens de faire des vœux pour lui. Il se prenait pour Allah Azza wa Jal, nadr, pour lui. Et ça, c'est du kofr, comme a dit Ibn Taymiyyah, c'était un kafir. Mais par après, il a fait tawba, il s'est repenti. Et il a cité des choses incroyables dans ses fatawa, des histoires concrètes. Et à l'époque du Sahaba, radiyallahu anhum, Rasulullah sallam a dit à Omar, quand quelqu'un il a l'iman, il a la foi, il a dit à Omar, chaque fois que le shaitan il te voit dans une rue de Médine, il esquive, il change de route. Il ne peut pas te rencontrer dans la rue de Médine. Pourquoi? Tellement il avait l'iman, Omar ibn Khattab. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullah khayr. S'il y a des questions, moi j'ai une proposition de continuer ce sujet une autre fois, en ce qui est de ruqya al-shar'iyya, et parler une autre fois de l'aïn, l'mas, etc. Ça, c'est une proposition.